Puis je me représenterai pour les derniers arrivés. Mais je vais surtout présenter le Rêve en poche. Donc c'est un réseau Veille-Sommeil en Poitou-Charentes. C'est une association loi de 1901 qu'on a créée avec les médecins du sommeil dans la région Poitou-Charentes et qui est destinée à faire plusieurs choses. De la formation professionnelle pour les médecins, d'une part, parce que les médecins, dans leur cursus universitaire, n'ont pas beaucoup de formation par rapport au sommeil. Donc ça... Et puis, une deuxième action, c'est une action de prévention et d'éducation du grand public sur le sommeil. Principalement pour la région Poitou-Charentes, puisque c'est Poitou-Charentes, puisqu'il y a un fort besoin de connaissances et d'instruction du grand public sur le sommeil et ce qu'est le sommeil en réalité, puisqu'en fait, la méconnaissance du sommeil aboutit à ce qu'on va voir ce soir, c'est-à-dire à la prise d'hypnotique de manière erronée. Donc il faut connaître le sommeil pour ne pas y faire attention. Donc Rêve en poche, ça a été créé il y a maintenant 4-5 ans, et donc on a dans Rêve en poche, on a créé une petite structure indépendante qui s'appelle l'Académie du sommeil. On a hésité avec l'école du sommeil, mais l'école du sommeil, ça impliquait plus l'apprentissage d'un sommeil, d'un bon sommeil, etc. Donc des moyens qu'on n'a pas encore. Et l'académie, ça faisait un peu plus officiel, et donc faire des conférences, ça allait bien au terme académique. Donc cette Académie du sommeil, c'est simplement donc la possibilité de faire des conférences. Et on a fait un partenariat avec Mendès France pour pouvoir faire ces conférences ici, de manière à bénéficier bien de la publicité et de l'aura de l'espace Mendès France au niveau de Poitiers. On avait fait deux conférences déjà sur notre site qui est situé au Futuroscope. Alors ces conférences, c'est la troisième qu'on fait maintenant. Donc ça a été créé en début d'année 2012. On en est à la troisième depuis le début de l'année. On en fera comme ça. Et la prochaine, on la fera ici aussi au mois de janvier, 31 janvier. Ça portera sur les apnées du sommeil. On vous parlera des apnées du sommeil pour les gens intéressés. Donc je pense que tout le monde est à peu près là. Alors moi, donc, je suis Joël Pacrot. Donc je suis professeur à la faculté de médecine de Poitiers. Mais ce n'est pas là en tant que professeur, je suis là en tant que président de l'association Rêve en poche. Et cette conférence, je la fais parce que j'ai quelques connaissances sur le sommeil. Et je me suis aperçu, en fait, au fur et à mesure de la pratique de la médecine du sommeil, j'ai commencé en 1988, j'ai créé le laboratoire du sommeil, du centre du sommeil à Poitiers, au CHU, qui existe depuis 1988. Et je me suis rendu compte qu'en définitive, il y avait beaucoup à faire en termes de prévention sur le sommeil et rien n'était fait aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Donc je me suis investi au niveau national auprès des ministères pour essayer de faire des campagnes sur le sommeil. Et on a créé au niveau national avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance et les documents que vous avez eus, que vous avez pris, les petits cahiers, là, les carnets du sommeil, c'est quelque chose qu'on a créé avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Et vous pouvez télécharger ces documents sur le site de l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, insv.org. C'est gratuit, c'est téléchargé gratuitement. Vous avez différents carnets qui ont été édités. Donc là, vous avez des choses qui sont bien éditées, bien brochées. Mais si vous pouvez le charger directement à partir du site insv.org. Notre site à nous, c'est rêveenpoche.fr. Et vous avez ici l'adresse email sur laquelle vous pouvez nous contacter. Notre site est encore en évolution en permanence, ne vous inquiétez pas. Donc la thématique aujourd'hui, c'est en fait, puisque c'est un vrai problème, mieux dormir sans somnifère. Alors, j'ai pas mis dormir sans somnifère, c'est juste mieux dormir. On ne va pas avoir un sommeil parfait. Hein ? Quand le sommeil est altéré, il est très très difficile de le récupérer totalement. Donc on va essayer de vous donner quelques astuces, quelques trucs pour essayer de mieux dormir sans somnifères. Alors il y a probablement un certain nombre de personnes ici qui prennent des somnifères depuis beaucoup d'années. Donc ça c'est les insomniaques chroniques. Mais la difficulté, souvent, à ce moment-là, c'est d'arrêter les somnifères. Alors, les somnifères, j'expliquerai ce que c'est. Mais pour les futurs insomniaques, qui sont là aussi, eh bien, j'espère que, à la fin, vous saurez qu'il est inutile de commencer par prendre un somnifère ou un hypnotique pour essayer de dormir. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est l'objet de la conférence. Alors, la conférence a plusieurs parties. Et vous pouvez poser des questions à tout moment. D'accord ? Vous levez le bras, vous posez la question. C'est un échange si vous le voulez bien. La première partie, c'est comprendre son sommeil. Essayer de pas son sommeil, mais le sommeil. Pourquoi est-ce qu'on dort ? Voilà. Donc, je vais vous donner quelques clés initialement pour ensuite essayer de comprendre ce que vous pouvez faire et pourquoi vous ne faites peut-être pas bien. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne dormez pas bien, pour ceux qui sont insomniaques. Tout d'abord, il faut savoir que le sommeil est propre à chaque personne. Donc, vous ne pouvez pas comparer, première chose que vous devez bien comprendre, vous ne pouvez pas comparer votre sommeil à celui du voisin ou de la voisine. Et dans un couple, il peut y avoir des gens qui dorment bien, une personne qui dort bien et l'autre qui ne dort pas bien. Et ça, parfois, ça crée des difficultés parce que la personne qui ne dort pas bien peut réveiller la personne qui dort bien et la personne qui dort bien finit par elle-même être insomniaque ou faire chambre à part. Donc ça peut créer véritablement parfois un problème de couple puisque le sommeil a un retentissement sur la vie du couple. Donc ça, c'est le fait que chaque personne à une individualité, une personnalité par rapport à son sommeil. Vous savez, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont gros, d'autres qui sont plus maigres, il y a des gens noirs, il y a des gens blancs. Eh bien, ça, c'est les gènes qui nous disent, qui nous programment pour être plus grands ou plus petits. Et on n'imagine pas quelqu'un qui fait 1m50 ou 1m60 d'un seul coup désirer vouloir faire 2 mètres et faire tout pour faire 2 mètres. Prendre des médicaments, de l'hormone de croissance, essayer d'atteindre 2 mètres. Il n'y arrivera pas. Donc, il accepte sa situation. Donc, le sommeil est propre à chaque personne. Il faut accepter son sommeil. Donc, il y a des gens qui vont dormir moins bien que d'autres. Mais je vous dis, on ne compare pas par rapport aux voisins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le sommeil est propre à chaque personne. Ça veut dire qu'on a des gènes qui structurent notre sommeil en termes de durée et en termes de positionnement sur la journée des 24 heures. Alors, vous pouvez être court ou long dormeur. Et ça, il faut bien identifier si vous êtes court ou long dormeur ou moyen dormeur. Il faut savoir que 80%, 85% des personnes sont dormeuses moyennes en durée. Puis ensuite, des courts dormeurs et des longs dormeurs. Alors, il n'y a pas de règles strictes, il n'y a pas de normes. On ne peut pas dire je dors moins de 6h30 par nuit, je suis un court dormeur, je dors plus de 6h30 par nuit, je suis un moyen dormeur. Donc, c'est un sentiment. Mais malgré tout, on considère qu'au-delà de... Ah, ça tombe tout seul. Ça, c'est pas bien. Donc, au-delà de 9h ou 9h30, on va être un long dormeur, à condition de dormir et de dormir, de ne pas rester au lit. Il faut faire la différence entre rester au lit et dormir. On peut être 9h, 10h ou 11h au lit. Ça va être très ennuyeux si ça fait ça tout le temps. Et en fait, ne dormir réellement que 8h. Donc le temps passé au lit et le temps à dormir, ce n'est pas la même chose. Donc vous pouvez avoir un temps passé au lit très long et ne dormir que 7h. Alors, long dormeur, court dormeur. Bon, certaines personnes vous disent très facilement, moi je dors peu la semaine. Mais le week-end, elles vont récupérer. Ça, ce sont des faux court dormeurs. Le vrai court dormeur, il dort 5 heures, 6 heures, et quel que soit le jour ou l'année, ou le mois dans l'année, ou quelle que soit l'année même, puisque ça ne va pas dépendre de l'âge, on va rester court ou long dormeur toute sa vie, eh bien cette personne va dormir 5 heures ou 6 heures, et n'a pas besoin de récupérer. Et ensuite, elle est bien, et n'a pas envie de dormir dans la journée. Vous voyez, un court dormeur, c'est quelqu'un qui dort peu, la nuit en général, et qui ne récupère pas, et qui ne somnole pas dans la journée. Parce que si vous êtes court dormeur, si vous dormez peu, et vous êtes toujours en train de dormir dans la journée, ça c'est autre chose, c'est que vous êtes en insuffisance de sommeil. Il vous manque du sommeil. Donc, court dormeur et long dormeur. Si vous êtes court dormeur, ou courte dormeuse, et que vous avez besoin de 6 heures de sommeil, et que vous êtes 8 heures au lit, il y a certainement 2 heures de trop, et ces 2 heures-là, vous serez réveillé. Vous ne pourrez pas dormir si vous êtes courte dormeuse. Mais si vous avez besoin de 8 heures et que vous êtes 8 heures au lit, vous dormirez 8 heures. Donc si moi je suis long dormeur avec 9 heures, je dors 9 heures, je suis 9 heures au lit. Si je suis avec quelqu'un qui est court dormeur ou courte dormeuse, qui a besoin de 6 heures, qui est 9 heures au lit, puisqu'on est ensemble au lit, admettons, eh bien, il y a une personne qui va être 3 heures au lit de manière inutile et qui va se plaindre de son mauvais sommeil parce que celui qui est à côté dort bien. Donc il faut identifier très nettement si on est court ou long dormeur ou moyen dormeur. Alors à quel moment on le fait ? Bien, quand on travaille, on le fait pendant les vacances, après une semaine de repos. Parce qu'en général, quand on travaille, on a une insuffisance chronique de sommeil et on récupère pendant la première semaine de vacances et ensuite on dort à son propre rythme. Donc on identifie si on est 8 heures ou 7 heures ou 10 heures au lit à dormir. À dormir. Ça, c'est pénible. Ensuite, vous allez être du matin ou du soir, ou ni l'un ni l'autre. C'est quoi être du matin ? C'est se coucher tôt et se lever tôt. Être du soir, c'est se coucher tard et se lever tard. Alors, ça veut dire quoi, se coucher tôt et se lever tôt ? Se coucher tôt, en France, la moyenne des heures de coucher, c'est entre 22h et minuit. Donc là, on se réfère à la population française, en l'occurrence. Et donc, avant 10h ou avant 9h, si on se couche avant 9h, on va être considéré comme un vrai couche-tôt. Mais ça peut être 9h30, 10h, c'est à peu près normal. Minuit, c'est dans la norme aussi. Mais si on se couche à 1h du matin ou 2h du matin, là, on est couche-tard, voire on est en retard de coucher par rapport à la population française. Si on se couche très tôt, à 19h, on dit qu'on est en avance par rapport à la population. En avance de phase ou un retard de phase si on se couche très tard. Mais on peut être couche tôt et lève tôt, donc on est du matin, couche tard ou lève tard, on est dit du soir, et court dormeur ou long dormeur, ça n'a rien à voir. Un couche tôt peut être court dormeur, un couche tard peut être long dormeur ou court dormeur. Donc il faut bien identifier les deux. Alors si vous êtes du soir et que vous vous couchez à 20h ou 21h, il y a peu de chances que vous vous endormiez avant 23h. Donc vous allez passer 1 heure ou 2 heures au lit à ne pas dormir. Donc il faut bien identifier cette caractéristique. En général, les gens connaissent cette caractéristique. Ou alors ils se trompent. Ils pensent être du matin et en fait, ils sont du soir. Ils pensent être du soir, mais ils se couchent à 21h30. Donc en connaissant le caractère du soir ou du matin, on peut corriger déjà certaines erreurs. Alors quand est-ce qu'on sait si on est du soir ou du matin ? Eh bien quand on est en vacances, même chose. Ou alors qu'on regarde à peu près l'heure à laquelle on se couche. Et si on est 1 heure au lit sans dormir, on se dit, tiens, je me suis peut-être couché trop tôt. Tout simplement. Plutôt que de prendre un hypnotique pour dormir. Donc il faut bien... Ça s'appelle la typologie par rapport au sommeil. Donc on a une certaine typologie du matin ou du soir, court ou long dormeur. Et c'est fondamental. On fait toujours attention, médecine du sommeil, à la typologie des gens. Parce que s'il y a un problème de sommeil, c'est par rapport à cette caractéristique. Donc si vous êtes travailleur de nuit, ou travailleur du matin, ou travailleur du soir, ça n'a pas les mêmes conséquences si vous êtes du soir ou du matin, ou court ou long dormeur. Donc il faut bien identifier ça. Ensuite, votre sommeil est réglé par différentes horloges. On est toujours rythmé, et on parle de rythme veille-sommeil. Donc on est éveillé la journée, en général, et on dort la nuit. Sauf quand on est en travail posté de nuit, on travaille la nuit, on dort le jour. Ça crée des problèmes. Donc il y a une horloge interne dans le cerveau qu'on a identifiée, parfaitement identifiée dans le cerveau, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Il y en a deux. Cette horloge interne a été identifiée par un Français dans les années 60. C'est Michel Siffre. Donc en France, on le connaît bien, pour les plus anciens. Les plus jeunes ne le connaissent pas forcément. Michel Siffre s'est isolé dans une grotte pendant 2 ou 3 mois et il a vécu à son propre rythme. Et un rythme qu'il ignorait au départ, il a tout noté, et à la fin, on a vu que cette horloge interne nous faisait vivre à un rythme qui n'est pas de 24 heures, quand on est en dehors du temps. Si on n'a pas de repère temporel, et ça c'est l'horloge temporelle jour-nuit, qui est la deuxième horloge qui nous est fondamentale pour le sommeil, l'alternance jour-nuit nous règle notre horloge interne, nous recale tous les jours. Tous les jours, notre horloge interne utilise le repère du jour et de la nuit pour se recaler. C'est que le jour et la nuit ont des durées variables en fonction des saisons. La nuit est plus longue l'hiver et plus courte l'été. Donc vous avez tendance à moins dormir l'été et à dormir un peu plus l'hiver parce que la nuit est plus longue l'hiver. Vous êtes moins éclairé. Et la lumière est un éveillant très fort. Quand on est éclairé, on est en général éveillé. C'est pour ça qu'on recommande la nuit d'être à l'obscurité. Donc l'horloge temporelle, l'alternance jour-nuit, va régler l'horloge interne par l'intermédiaire d'une hormone qu'on va voir, la mélatonine. Donc cette horloge interne, elle ne vit pas si on la laisse marcher toute seule dans un isolement temporel, sans repère, ni montre, ni variation de température, ni variation de l'air dans la pièce où on vit, ni relation sociale, et on prend ses repas quand on en a envie, on n'a pas de repère exact, et bien cette horloge temporelle, cette horloge interne nous fait vivre à un rythme de 24 heures et quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est variable en fonction des personnes. Mais on a identifié tout récemment qu'il y avait certaines personnes pour lesquelles cette horloge interne avait un rythme plus court, 23 heures et 50 minutes, 23 heures et 45 minutes. Alors on pense, mais ce n'est pas encore montré, que les gens qui ont un rythme plus court que 24 heures sont des courts dormeurs et des gens du matin. Et les gens qui ont un rythme plus long sont peut-être les longs dormeurs et les gens du soir, surtout les gens du soir ou les gens du matin. Il n'y a pas encore la preuve de ça. Mais ça paraît assez sensé sur le plan du raisonnement. Et puis la troisième horloge qui est indispensable, c'est l'horloge sociale. Ce rythme social nous impose notre propre rythme. Quand vous travaillez, quand on travaille, on sait qu'il faut aller travailler, être à l'usine ou au bureau à 8 heures le matin. Et si vous conservez son travail, on a tout intérêt à respecter cette condition. Si on arrive à 9 h ou à 10 h, eh bien en général, le patron n'est pas très content et au bout de quelques jours, il vous dit, mais écoutez, ça ne va pas du tout, moi je ne vous garde pas puisque vous arrivez trop tard. On le voit, ce problème-là est vu chez les jeunes étudiants qui commencent à travailler. Un étudiant se lève tard, peut se lever tard parce qu'il n'y a pas de contrainte très forte sur la présence à l'université, mais quand il prend son travail, eh bien son rythme, il est habitué à se lever très tard ou tard et son horloge interne n'arrive pas à se recaler pour le faire lever tôt. Et il a des difficultés à garder son travail. Donc cette horloge sociale, ce rythme social est très très fort. Pour les adultes, c'est le travail. Pour les enfants, c'est l'école. On lève les enfants le matin pour aller à l'école. Ce rythme social, il faut le respecter. On le respecte. Mais il y a un âge, en particulier à la retraite, où ce rythme social est moins fort. On a moins de contraintes. Et donc soit on va se coucher plus tôt, soit on va se lever plus tard parce qu'on est relativement libre. Et quand on est au travail, en général, en France et dans le monde occidental, il est très mal vécu de faire la sieste ou de dormir au travail. Qui a essayé de dormir 1 h 30 au travail ici? Ou 1 quart d'heure? Ou 5 minutes? Voilà, 5 minutes, très bien. Alors vous pouvez tous dormir 5 minutes au travail. On peut toujours s'isoler, sauf quand on est sur une chaîne. Mais c'est très très mal vécu. On n'imagine pas une secrétaire en train de taper à la machine, s'arrêter, poser la tête sur le bureau pendant 5 minutes et recommencer le travail. Si par malchance le supérieur hiérarchique arrive à ce moment-là, elle va se faire réprimander. Très fort. Donc ça, c'est une mauvaise habitude sociale de nos sociétés, sociétales. Eh bien, on ne fait pas la sieste, on n'accepte pas la prise de sommeil, même très brève, de 2 ou 3 minutes dans notre société. Donc ça, je travaille. Quand on est à la retraite, on n'a pas cette contrainte et on accepte très facilement de faire la sieste en début d'après-midi. Mais il ne faut pas faire la sieste n'importe quand. Si vous voulez, on parlera de la sieste. Alors, ce qui règle notre horloge interne, c'est l'alternance lumière-obscurité. Et la lumière et l'obscurité vont influencer la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Alors vous avez tous entendu parler de la mélatonine, peut-être. Alors cette mélatonine, elle est sécrétée par une glande qui est située dans le cerveau, enfin pas strictement dans le cerveau, mais au niveau du cerveau, qui s'appelle l'épiphyse. Cette mélatonine, vous voyez, elle est sécrétée ici. Ça, c'est l'obscurité, la nuit. Et vous voyez, le soir arrive. Et on a un début de sécrétion de la mélatonine. Et c'est l'apparition du début de la sécrétion de la mélatonine qui vous donne l'envie de dormir. Enfin, le signal pour aller dormir plutôt. L'envie de dormir, c'est autre chose. Donc là, c'est un signal comme quoi, eh bien, il est nécessaire d'aller vous coucher. voyez, ça vous donne envie d'aller au lit, cette affaire-là. Le début. Et ensuite, pendant la nuit, eh bien, cette mélatonine va être sécrétée. Et tant que la mélatonine est sécrétée, l'organisme considère que vous êtes à l'obscurité et déclenche les circuits du sommeil. Et alors, plus elle est sécrétée haut, plus vous allez être dans un sommeil stable. Alors, quand on vieillit, eh bien, le taux de mélatonine ici va baisser et on sécrète moins de mélatonine, d'où l'instabilité du sommeil. Et puis le matin, quand la lumière revient, la mélatonine diminue sous l'influence de la lumière. Dès qu'on est éclairé, le taux de mélatonine diminue fortement. Donc si vous dormez dans une pièce éclairée, eh bien, votre taux de mélatonine diminue, voire disparaît complètement pendant le temps où vous êtes éclairé, même si c'est 5 minutes. Vous allumez pour aller aux toilettes. Pendant 5 minutes, eh bien, vous avez une chute de la mélatonine. Et quand vous vous couchez, à nouveau vous éteignez, eh bien, la sécrétion de mélatonine va reprendre son niveau initial, comme si rien ne s'était passé. Mais si vous restez éclairé pendant toute la nuit dans votre chambre, eh bien, votre taux sera inférieur à ce qu'il devrait être. Et vous aurez un sommeil beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce qui peut influencer cette mélatonine? C'est la lumière. Et à quel moment on garde la lumière dans la chambre? Eh bien, quand on a des volets qui ne sont pas efficaces, des persiennes qui ne font pas l'obscurité suffisamment, ou quand il n'y a pas du tout de persiennes aux fenêtres, ou si on a des persiennes, si la lumière passe à travers les persiennes, quand on a de la lumière à l'extérieur qui passe à travers, par exemple un lampadaire, ou la lune, les jours de pleine lune. Les jours de pleine lune, vous pouvez avoir des difficultés à dormir sans vous en rendre compte, le sommeil est plus léger pour certains, et vous allez vous réveiller plus facilement. Alors, il n'y avait pas eu d'études, on en a parlé juste avant, c'est pour ça que je vous en parle, il n'y avait pas eu d'études sur l'effet de la Lune sur le sommeil. On sait très bien que la Lune influence la qualité du sommeil par l'intermédiaire de cet effet de lumière. Mais peut-être pas seulement. Alors, cette mélatonine, elle est, vous voyez, elle est sécrétée différemment chez les gens qui sont du matin et chez les gens du soir. Il y a un petit décalage. Les gens du matin sécrètent leur mélatonine plus tôt et les gens du soir commencent à sécréter leur mélatonine plus tard. Donc il est tout à fait illusoire pour quelqu'un du soir, vous voyez ici elle commence à minuit, de se coucher à 20 heures, puisque ce laps de temps-là, eh bien, il n'aura pas le signal du sommeil. Alors il y a d'autres techniques pour améliorer ça. Hein? Mais là, voilà, l'explication, on la connaît. Les gens du matin, s'ils persistent à vouloir rester éveillés, eh bien, ils vont avoir envie de dormir. Donc, s'ils se couchent habituellement à 21h30 et qu'ils continuent la soirée à 22h30, 23h, minuit, ils ont d'énormes difficultés à rester éveillés. Ils sont obligés de résister et finalement, ils n'arrivent pas et puis ils vont se coucher s'ils sont chez eux. Vous voyez cette différence. Alors, les gens qui sont intermédiaires, la mélatonine est sécrétée de manière intermédiaire. Alors, on peut jouer sur cette. Oui. Alors, on peut prendre des comprimés de mélatonine. Mais si on prend des comprimés de mélatonine, il y a des indications précises. C'est pour les gens très décalés, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et on peut, de manière tout à fait comparable, prendre de la lumière. Si vous éclairez les personnes ici, par exemple celui-ci, ce sujet du matin, si on éclaire très fort avec des lumières, vous savez que vous avez peut-être entendu parler de la luminothérapie, je vous montrerai de quoi il s'agit, eh bien, l'effet de la lumière, c'est l'effet sur la mélatonine. C'est comme si on prenait de la mélatonine. Hein. Donc ici, quand vous éclairez cette personne, son taux de mélatonine va diminuer très fortement, voire s'arrêter complètement, avec des éclairements suffisants. Et le fait d'arrêter la sécrétion de mélatonine, eh bien, cette mélatonine va commencer à être sécrétée plus tard. Et on va comme ça recaler la personne. Si elle se couchait trop tôt, en avance de phase, on va la régler pour être en phase avec la population. Progressivement, au bout de 2-3 jours, 4 jours, sa mélatonine va se décaler. Et vous savez tous que lorsqu'on change les horaires d'été et d'hiver, on est tous en difficulté pendant quelques jours. Oui. Oui, ça diminue avec l'âge. La mélatonine diminue avec l'âge, ce qui explique qu'on a une stabilité, une continuité du sommeil qui est moins bonne. On se réveille plus facilement quand on est plus âgé. Alors quand je dis plus âgé, c'est à partir de 70, 75 ans. Oui, il y a alors ça marche plus ou moins. Hein. Mais il y a un médicament qui est en fait de la mélatonine et qui est destiné à simplement additionner un petit taux de mélatonine supplémentaire pour les personnes qui sont vraiment, vraiment gênées, mais ce médicament n'est pas remboursé. Alors avec ça, vous êtes du matin à du soir et donc vous avez un sommeil qui s'organise la nuit. Normalement, la nuit, j'ai mis adulte jeune. Ça, c'est la structure de votre sommeil. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Quand vous dormez, quand vous vous endormez le soir, eh bien, le mieux, c'est d'aller au lit. Si vous vous endormez, pas trop tôt, ni trop tard. Donc, d'aller à la bonne heure, à votre heure à vous. Et vous allez au lit. Quand vous allez au lit, vous avez une petite période d'éveil initiale, toujours. Ça peut être quelques minutes, quelques secondes, plusieurs dizaines de minutes parfois. La norme chez le sujet jeune, c'est combien ? Est-ce que vous avez une idée ? Combien de temps vous attendez en moyenne quand on est jeune, entre 20 et 30 ans pour s'endormir ? 5 minutes. 20. Les jeunes, combien de temps vous mettez ? 30 minutes. Eh bien, on considère que, que normalement, on s'endort en moins de 30 minutes quand on est jeune. Alors ça, c'est pour les plus âgés. Hein. Jeune, c'est moins de 30 minutes. D'accord ? Vous vous couchez à 23h. Si à 23h15, vous n'avez pas dormi, c'est pas un drame, c'est encore normal. 23h30, vous n'êtes pas endormi, c'est pas grave non plus. Même à 24h, même à minuit, si c'est une ou deux fois. D'accord ? Donc, c'est un délai d'endormissement qui peut être long, même chez le sujet jeune. 30 minutes, ça peut être 2 minutes, c'est pas normal. Hein. Mais donc, on considère que ce délai d'endormissement, eh bien, il y a un délai d'endormissement qui est fonction de ce que vous avez fait avant. Si vous êtes très actif juste avant d'aller vous coucher, vous avez toujours un délai d'endormissement plus long. Parce que quand vous êtes actif, bien, vous dégagez de la chaleur, vous produisez de la chaleur, et puis votre cerveau est très actif, et il lui faut une période de calme pour s'endormir. Il faut toujours avoir une période de transition entre l'éveil et le sommeil. Vous ne pouvez pas vous endormir d'un seul coup, sauf dans des cas pathologiques. Hein. Dans certaines maladies, on s'endort d'un seul coup. Mais normalement, on parle ici de la normalité, on ne va pas parler des pathologies. Eh bien, on passe de l'état d'éveil à l'état de sommeil de manière transitionnelle, de manière progressive. Et il faut accompagner ce passage. Donc, si vous faites des comptes le soir, si vous travaillez sur Internet, si vous faites du sport, juste avant d'aller vous coucher, vous vous mettez en condition d'éveil, en fait, et non pas de sommeil. Donc, on recommande toujours d'être au calme, en dehors du lit, si possible, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller se coucher et d'attendre le sommeil arriver. La télévision, c'est pareil. Alors, c'est un peu particulier. On en reparlera de la télé. Donc ensuite, vous vous endormez. Alors, chez le sujet plus âgé, 70 ans, 75 ans, même 60 ans, disons, ce temps d'endormissement, ce délai d'endormissement peut être de plus de 30 minutes. Ça peut être 40 minutes, 45 minutes d'attente le soir avant de s'endormir. C'est long, hein ? Donc, il faut faire autre chose. Et puis ensuite, vous vous endormez et vous vous endormez en faisant des cycles d'environ une heure et demie. Des cycles de sommeil. Et donc, si vous vous réveillez, souvent, c'est à la fin d'un cycle de sommeil. Alors, quand on est jeune, on ne se réveille pas, ou peu. Si on se réveille, c'est pour quelques secondes, quelques minutes, et on se rendort. En revanche, quand on est plus vieux, 50 ans, 60 ans, 70 ans, eh bien là, quand on va se réveiller à la fin d'un cycle, alors, les cycles sont représentés par l'intervalle entre chaque rectangle vert. Eh bien là, on se réveille, et ça dure plus longtemps. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Donc, quand on est plus vieux, on met plus longtemps à s'endormir. Et quand on se réveille, on met plus longtemps à se rendormir. D'accord ? Et puis, donc, un cycle dure une heure et demie. Toutes les heures et demie, vous pouvez vous réveiller, regarder le réveil. Et puis, si vous êtes un peu anxieux, pensez à ce que vous allez faire le lendemain. Et là, vous commencez à penser que vous ne dormez pas puisque vous avez vu le réveil. Et donc, ça, c'est un problème. Et c'est tout à fait normal. Et souvent, on nous dit, mais vous savez, moi, je me réveille toutes les deux heures. Eh bien oui, c'est à chaque fin de cycle. Donc ça, vous pouvez considérer que c'est normal, on n'en tient pas compte. Et quand vous vous endormez, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous couchez, sauf si c'est très très tard le matin, vous allez toujours commencer par des cycles qui comprennent du sommeil profond. C'est ce qui est en gris ici. Vous voyez ? Alors, le rectangle gris représente le sommeil profond. Vous vous endormez d'abord en sommeil léger et vous passez rapidement en sommeil profond. Et ça, c'est vrai quel que soit l'âge. Hein ? Tout le monde fait du sommeil profond. Mais le sujet plus âgé fait un petit peu moins de sommeil profond que le sujet plus jeune. À 20 ans, on fait 25% de sommeil profond. Et quand on est plus âgé, 75 ans, 15% de sommeil profond. On perd pas beaucoup, hein, mais on en fait. Mais l'organisation de la nuit est strictement la même. Ça, c'est génétique, on n'y peut rien. Et donc, vous commencez par faire un premier cycle, vous vous endormez dans une phase de sommeil léger, vous passez rapidement au sommeil profond, et ensuite, à la fin du cycle, c'est une phase de rêve, de sommeil dit paradoxal. Ça, c'est la phase des rêves. Et ça termine le cycle. Et donc, ce sommeil paradoxal va survenir toutes les heures et demie, ça définit l'intervalle, enfin le cycle de sommeil. Alors, si vous observez bien ce diagramme, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 cycles de sommeil pour cette nuit, et qu'il y a du sommeil profond en début de nuit, et que plus la nuit avance, moins il y a de sommeil profond, voyez? Et plus au contraire, en bleu clair, vous avez du sommeil léger. Et donc, si vous vous réveillez ici, en fin de nuit, dans la deuxième partie de nuit, eh bien, vous vous réveillez plus facilement en sommeil léger qu'en sommeil profond. Le terme léger et profond fait référence à la difficulté qu'on a à réveiller quelqu'un quand il dort. Donc, quand vous êtes en sommeil léger, si on vous stimule, vous vous réveillez facilement. Il faut une stimulation de faible intensité. Quand vous êtes en sommeil profond, il faut une stimulation de plus forte intensité pour vous réveiller. C'est ça ce que ça veut dire, hein, léger, profond. Donc là, quand vous êtes en deuxième partie de nuit, eh bien, vous faites plus de sommeil léger, ce qui fait que la moindre stimulation va vous réveiller. Exemple, le bruit dans la rue ou quelqu'un qui se réveille à côté de vous. Et là, vous l'entendez et vous ne pouvez plus vous rendormir. Et même, vous vous réveillez plus facilement, spontanément, parce que le sommeil est plus léger. Et vous faites plus de rêves et vous pourrez vous réveiller en sommeil paradoxal. Alors la différence quand on est adulte plus âgé, c'est qu'on fait moins de sommeil profond en début de nuit, remplacé par du sommeil léger, et on fait des éveils plus fréquents, avec des durées plus longues. Donc quand on vieillit, on devient insomniaque. Donc quand on est jeune, on a un sommeil normal, attendu, comme celui-ci. Et quand on vieillit, eh bien, le sommeil se fragmente. Il y a une discontinuité naturelle du sommeil. Donc vous vous réveillez plus longtemps, vous vous réveillez plus tôt et vous vous endormez plus tard, et tout ça c'est physiologique, c'est normal. Mais le problème c'est que quand on a 60 ans, on voudrait dormir comme quand on avait 20 ans. Je dors plus comme quand j'étais plus jeune. Oui, ça c'est vrai. Donc il faut accepter le fait que le sommeil n'est plus à 60 ans ou 70 ans ou 50 ans comme quand il était quand on avait 20 ans. Le sommeil a changé. Et vous aussi, vous avez changé. Et donc, vous devez accepter que ce sommeil change. Il vieillit, le sommeil. Votre cerveau vieillit. Vous n'avez pas la preuve que le cerveau vieillit. De temps en temps, vous dites, tiens, j'ai des petits troubles de mémoire. Mais personne ne s'inquiète parce que tout le monde le dit un peu. Vous voyez votre peau qui vieillit. Les rides, je peux voir le voisin. Il a vieilli, il est tout ridé. Je suis pareil, c'est normal, on a 60 ans. Mais vous ne voyez pas son sommeil. Et si le voisin ne se plaint pas de son sommeil, parce que lui, il n'a pas de problème de plainte par rapport à son sommeil, même s'il se réveille 10 fois la nuit, si vous ne le dites pas, vous ne le saurez pas. Et donc, vous pensez, parce qu'il ne vous le dit pas, que lui, il dort bien. Mais il ne vous l'a pas dit. Vous n'en savez rien du tout. Eh bien non, tout le monde a une fragmentation du sommeil quand on vieillit. Alors, plus ou moins. Donc, cette plainte de mauvais sommeil, elle est souvent associée, en fait, au vieillissement naturel. Mais je ne dors pas bien, je me réveille. Oui, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas anormal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce besoin de sommeil qui arrive le soir, c'est une régulation exactement comme le taux de glycémie ou le taux de cholestérol que vous avez dans le sang. Vous avez besoin d'une certaine quantité de sommeil. Donc, vous avez besoin d'un taux de sucre, d'un niveau de tension artérielle, etc. Et cette régulation du sommeil se fait pendant les 24 heures, pendant que vous êtes éveillé, vous allez accumuler un besoin de sommeil dans la journée. On accumule le besoin de sommeil qui va nous servir pour la nuit. Vous voyez, ici, vous avez 24 heures, 12 heures, 24 heures. Donc, vous avez une journée ici et 12 heures. Donc, vous voyez, ça, c'est une journée. C'est la journée suivante. Le besoin de sommeil est représenté par les oscillations ici, comme ça, ces triangles-là. Quand vous êtes en début de journée ici, votre besoin de sommeil est très faible. Normalement, quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas envie de dormir. Si on a envie de dormir le matin, c'est soit qu'on n'a pas assez dormi, soit qu'on a eu un sommeil fragmenté, discontinu, soit qu'on a une pathologie du sommeil. Mais normalement, quand on se réveille, théoriquement, on doit être frais et dispos. Ça, c'est la qualité du sommeil, ça repose. Le sommeil qui repose le plus, c'est le sommeil profond. Donc là, vous n'avez pas, théoriquement, pas vraiment envie de dormir, le besoin de sommeil est faible. Mais quand, vous voyez, la journée se passe, et plus la journée avance, plus vous avez envie de dormir. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes éveillé. Mais ce besoin de sommeil s'accumule, comme un petit tas de sable qui s'accumulerait dans la journée. Toutes les minutes qui passent, tant que vous êtes éveillé, le sommeil s'accumule. Ce besoin de sommeil s'accumule. Et on a été longtemps à la recherche dans le cerveau de ce qu'était ce besoin de sommeil. On l'a identifié, on sait ce que c'est. Il y a une molécule qui s'accumule dans le cerveau qui s'appelle l'adénosine. Cette adénosine s'accumule, c'est un produit de dégradation de l'activité cellulaire. Donc nos cellules travaillent, nos neurones travaillent et ils libèrent de l'adénosine. Cette adénosine s'empile en quelque sorte, se distribue dans le cerveau et particulièrement au niveau du cortex cérébral et va s'accumuler sur des récepteurs spécifiques qui vont nous endormir ou qui vont nous donner le besoin de sommeil. Ce besoin de sommeil s'accumule au cours de la journée et le soir, quand la mélatonine augmente, eh bien vous avez accumulé tellement de besoin de sommeil que vous vous endormez. Ça, c'est la pression du sommeil qui vous fait dormir. Donc, pour s'endormir le soir, il y a deux conditions. Un, eh bien, avoir passé une journée active, à la lumière si possible, sans prendre de sommeil dans la journée, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre du sommeil, à chaque fois, vous allez baisser le besoin de sommeil. Si vous voulez un tas de sable d'un kilo et que vous en enlevez 100 grammes toutes les demi-heures, il va falloir longtemps pour remplir le tas de sable. D'accord? Donc ici, dans la journée, vous accumulez ce besoin de sommeil dans le cerveau, mais si vous dormez alors 2 ou 3 minutes, ça n'a pas de conséquence. C'est pour ça qu'on recommande des siestes de moins de 20 minutes. Ça n'a pas entamé ce capital sommeil. Mais si vous dormez 1 heure et demie à la sieste, alors là, c'est beaucoup. Et 1 heure et demie, c'est un cycle de sommeil. Donc quand on parle des courts dormeurs et longs dormeurs, de la quantité de sommeil, c'est la quantité de sommeil prise sur 24 heures et non pas sur la nuit. Donc si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, ce qui est la quantité à peu près normale pour un adulte jeune et même âgé, il n'y a pas tellement de différence. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous dormez 1 heure et demie dans la journée, quelle que soit l'heure, hein, le matin ou l'après-midi ou en soirée, bien 8 heures moins 1 heure et demie, il vous reste 6 heures et demie à dormir la nuit, pas plus. Donc 6 heures et demie, si vous vous couchez à 22 heures, vous vous réveillez à quelle heure? 4h30 du matin. Et vous avez pris votre quantité de sommeil. Et il est hors. Et ensuite, vous ne dormirez pas, ça je vous l'assure. Parce que vous n'avez plus le besoin de sommeil. Et pour retrouver ce besoin de sommeil, eh bien, la meilleure solution, c'est de se lever et d'être actif jusqu'à la fin de la journée. Alors vous allez me dire, mais en début d'après-midi, moi je m'endors tout le temps. Hein. J'ai toujours envie de dormir en début d'après-midi. Oui, ça c'est vrai, de manière physiologique, on a envie de dormir en début d'après-midi. C'est pour ça qu'on recommande la sieste pour ceux qui ont vraiment envie de dormir, s'ils sont au volant ou il y a un coup de. Parce que là, le besoin de sommeil est très fort et rediminue ensuite pour réaugmenter. Donc cette petite sieste de début d'après-midi, oui. La sieste de fin d'après-midi, non. Si vous dormez à 17 heures ou 18 heures, même 1 demi-heure, le temps qui vous reste avant d'aller au lit est trop court. Vous n'aurez pas le temps d'accumuler du sommeil. Donc si vous voulez dormir, il vous faut une longue, longue, longue période d'éveil. D'éveil. Ensuite, quand vous dormez, eh bien, le besoin de sommeil disparaît. Hein, cette adénosine est éliminée, est dégradée, et on a de moins en moins envie de dormir. Donc l'adénosine fabrique le sommeil profond de début de nuit. Ensuite, on est en sommeil léger. On a de moins en moins envie de dormir. Et le matin, eh bien, la mélatonine diminue. Le besoin de sommeil est peu important. Et on se réveille naturellement. Alors quels sont ceux qui se réveillent le matin sans le réveil ou avant la sonnerie du réveil? Voilà. Et quels sont ceux qui ont besoin du réveil? Absolument. Alors, il y en a, c'est indifférent. Vous devez choisir, hein, autrement moi je ne peux pas juger. Je n'ai pas eu assez de réponses. Alors ceux qui se réveillent sans le réveil, ou alors avec un réveil, mais on est réveillé avant la sonnerie, ça veut dire que l'horloge biologique est bien réglée et qu'on est, en fait, finalement, on a utilisé sa quantité de sommeil. Et on se réveille naturellement. Si au contraire, c'est le réveil qui nous réveille le matin, bien soit on n'a pas adapté ses heures de sommeil à ses besoins, on devait dormir un peu plus et on se réveille trop tôt, soit c'est notre horloge qui est déréglée, elle nous réveille trop tard et nous, on veut se lever plus tôt. Donc, soit on prend pas assez de sommeil, soit on en prend trop. Donc, il faut faire très attention à cette horloge biologique quand on parle d'insomnie. C'est souvent un problème d'horloge. À quelle heure je suis calé? Et puis, eh bien, en fait, le rythme veille-sommeil, c'est un interrupteur. Vous êtes soit éveillé, soit endormi. C'est un modèle qui marche bien. Alors, le soir, vous avez le besoin de sommeil, vous avez envie de dormir, c'est ça le soir. Donc l'horloge biologique vous indique par l'intermédiaire de la mélatonine que vous avez envie de dormir, la pression de sommeil vous fait bâiller, etc. Vous dites, ah, c'est l'heure d'aller au lit. Attention, si vous n'allez pas au lit, vous allez manquer le premier cycle de sommeil. Après les 20 premières minutes, c'est foutu. Vous pouvez aller au lit, vous ne vous endormirez plus. Il faudra attendre le prochain cycle. Donc dès les premiers signes de sommeil, si c'est l'heure, on y va. Mais si on y va trop tôt, attention, on va se réveiller trop tôt. Donc, il faut garder le calage de l'horloge, le soir et le matin. Si on dérègle cette horloge, et vous le savez avec l'expérience des changements d'horaire d'été et d'hiver, eh bien, on est déréglé. Ou si on va à l'étranger, c'est pareil. Donc, le soir, le besoin de sommeil est élevé. On se met au calme avant d'aller au lit. Parce que quand on est couché, on est allongé en général. Et ça. Le cerveau prend cette information, il est allongé, comme une information sommeil. Je dors allongé. Et si on est au lit en train de lire, de regarder la télé, de jouer à l'ordinateur, de téléphoner, etc., on met en contradiction le cerveau, on est allongé, c'est un signe de sommeil, mais en même temps, on fait une activité d'éveil. Et quand on est entre l'éveil et le sommeil, ce qui domine, c'est l'éveil, toujours. Il est beaucoup. Si je vous demande de vous endormir à n'importe quelle heure dans la journée, vous ne vous endormez pas. Vous ne vous endormez pas. Si on vous demande de résister au sommeil, vous pouvez résister au sommeil. C'est plus facile de décider de rester éveillé que de décider de s'endormir. Et tous les insomniaques le savent bien. Puisqu'ils veulent dormir, ils n'y arrivent pas. Donc on ne peut pas décider à quel moment on va dormir. On peut décider qu'on peut rester éveillé, en particulier le soir. Donc là, vous allez vous endormir, tout simplement, parce que c'est le moment de dormir. Et à ce moment-là, quand vous dormez, eh bien, il y a un circuit qui fait que vous ne vous réveillez plus. On empêche l'éveil d'apparaître. Dès que vous vous endormez, les circuits du sommeil s'opposent à l'éveil. Et c'est pour ça que vous êtes en sommeil profond. On peut vous stimuler, faire du bruit, sauf si c'est très très fort, parce qu'il y a quand même un mécanisme de survie, et là, ça vous réveille quand même. Vous n'êtes pas bien si on vous réveille en sommeil profond. Et ce qui facilite l'éveil, eh bien, c'est le bruit, la lumière, les excitants, le besoin de sommeil insuffisant. Si vous n'êtes pas resté longtemps éveillé dans la journée, pas assez longtemps de suite. Hein, il faut avoir une période d'éveil longue. Si vous dormez le matin, 1 heure, l'après-midi, 1 heure, et puis 1 heure à 18 heures, ça vous fait 3 heures dans la journée, vous dormirez au maximum 4 heures la nuit. Donc, ne jamais, pour les gens insomniaques, ne jamais dormir dans la journée. Jamais, jamais, jamais. Même pas de sieste, rien. Pour garder tout son besoin de sommeil pour le soir. Et là, donc là, vous allez évidemment ne pas être réveillé. Mais il peut y avoir de temps en temps des problèmes. Et puis le jour, eh bien le jour, c'est l'inverse. Le matin, on se réveille parce que le besoin de sommeil a diminué. Vous voyez, le besoin de sommeil a disparu. Et l'horloge biologique, eh bien, elle nous indique le matin, il faut vous lever. Donc on met en marche les circuits d'éveil. Qu'est-ce qui met en marche les circuits d'éveil le matin? C'est vos petits réveils. Vous réveillez un peu, vous bougez, et ces mouvements vont stimuler les mécanismes d'éveil. Et vous vous réveillez définitivement avant le réveil si vous êtes bien réglé. Tous ceux qui se réveillent avec le réveil, c'est qu'ils ont probablement une insuffisance de sommeil ou une horloge décalée. Et alors, si vous voulez être en forme le matin, vous vous mettez au bruit, à la lumière, très tôt. Dès que vous êtes levé, on allume la lumière. Parce que si on est à l'obscurité, ce n'est pas un signal fort d'éveil. Il faut être à la lumière. Faire de l'exercice, matinale ou dans la journée, avoir une vie sociale, ça c'est très important, le rythme social, qu'on soit retraité ou pas, garder des contacts sociaux, c'est un élément extrêmement important. Je ne parle pas du repas ici, mais il faut tenir compte du repas, le petit déjeuner le matin, le repas du midi et le repas du soir, à heure régulière, c'est 10% pour recaler l'horloge biologique. Hein. Donc il faut savoir prendre un petit déjeuner. Pas de sommeil le jour, sauf la sieste parfois. Et vous voyez, à ce moment-là, vous avez plus de chances de rester éveillé, parfaitement éveillé toute la journée. Il faut se mettre en condition d'éveil. Si vous êtes dans la journée allongé sur le canapé, dans l'obscurité, à regarder la télé, les volets fermés, Ce n'est pas des conditions d'éveil. C'est de la monotonie. Vous allez vous endormir sans vous en rendre compte. Et prendre 10 minutes de sommeil, puis vous vous réveillez. Et puis vous regardez l'émission pendant une demi-heure, puis à nouveau vous vous rendormez. Ça fait 2 fois 10 minutes, ça fait déjà 20 minutes. Si vous le faites 3 fois, ça fait une demi-heure. Et à chaque fois, vous prenez un petit peu de sommeil, et le besoin de sommeil diminue un petit peu à chaque fois. Et ça, c'est la clé pour dormir. C'est de bien comprendre que ce besoin de sommeil, il est fondamental. Donc, il faut tout mettre de son côté et ne pas dormir dans la journée. Et alors, après, il y a un mauvais sommeil. C'est quoi ? Ben ça, vous avez, il y a certainement des gens parmi vous qui le savent. C'est des difficultés à commencer son sommeil. On n'arrive pas à s'endormir. Et ça, c'est pénible. Des réveils nocturnes fréquents, le réveil matinal trop tôt, 4 heures du matin, et du sommeil léger ou pas d'ailleurs, non réparateur, c'est sommeil profond. Quand on fait une nuit que de sommeil léger, en fait, le sommeil léger est moins réparateur que le sommeil profond. Ça, c'est souvent dans les cas pathologiques. Et donc, le matin, on se lève fatigué. Alors, il faut savoir faire les différences entre ce qui est occasionnel de ce qui est chronique. Et là, on va plutôt parler du mauvais sommeil chronique. Le mauvais sommeil occasionnel, c'est quelques nuits. C'est moins de 3 nuits par semaine. Donc, si vous dormez mal une nuit par semaine, vous n'en faites pas, on considère que c'est normal. Donc, vous inquiétez pas. Je ne dors pas bien. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, bon, occasionnel à l'occasion d'un événement particulier. Le gamin qui n'a pas été reçu à son examen, il a des chances de mal dormir la nuit. Ça le tracasse ou ça tracasse les parents. Donc ça, c'est une inquiétude passagère. Un décès, un événement, un déménagement, les vacances, etc. Les changements, on va dans un hôtel, sont des insomnies occasionnelles. On ne fait rien. On ne fait rien si ça dure une journée, 2 jours. Parce que le besoin de sommeil sera toujours plus fort. Si vous ne dormez pas la nuit, même si vous êtes au lit, si vous ne dormez pas du tout, le besoin de sommeil continue à s'accumuler. Ce besoin de sommeil ne disparaît que si vous dormez. Et c'est tellement important que l'organisme vous fera dormir de toute façon. L'organisme, le cerveau, l'organisme entier ne peut pas se passer de sommeil. Il faut bien comprendre que le sommeil est indispensable à la vie. Vous ne pouvez pas ne pas dormir. Alors après, dormir au bon moment, c'est autre chose. Mais vous allez vous endormir si vous manquez de sommeil et si vous avez une dette de sommeil majeure, vous vous endormirez toujours. En particulier au volant de la voiture, si vous êtes levé tôt pour faire une grande route. Le sommeil survient parfois de manière inattendue, inopinée, brutale, et on ne s'en rend pas compte. Vous avez tous eu la chute de la tête au volant de la voiture ou devant la télé. Ça, c'est un accès de sommeil de quelques secondes. La tête ne tombe pas toute seule. Si la tête tombe, c'est que vous vous êtes endormi. Hop, et bien ça dure une seconde ou deux, puis vous vous relevez. Mais le fait d'avoir la tête qui tombe, ça réveille en fait. Et vous avez aussi le soir ces secousses-là. Hein. Ça, c'est que vous vous endormez. Ensuite, le mauvais sommeil peut être de courte durée, moins d'un mois. Ça, c'est l'insomnie transitoire qui va gêner pour une quinzaine de jours. L'insomnie occasionnelle, l'insomnie transitoire, ça, on peut aider parfois avec des somnifères, mais ce n'est pas recommandé. Le mauvais sommeil chronique, c'est au moins un mois, c'est 3 nuits par semaine, pendant au moins un mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Les gens se plaignent de leur mauvais sommeil, souvent depuis plusieurs années. Vous voyez ? Donc c'est au moins 3 mauvaises nuits par semaine, pendant au moins un mois. Mais en fait, en médecine du sommeil, on s'aperçoit que c'est 3 mois, souvent 1 an. Et la condition pour considérer que c'est une insomnie ou un mauvais sommeil, c'est qu'il y ait une répercussion dans la journée. Si vous ne dormez pas bien et vous fonctionnez normalement dans la journée, pas de troubles de mémoire, pas de troubles digestifs, pas de maux de tête, je fais ce que je veux, tout va bien. Et on a des gens comme ça qui viennent consulter parce que je ne dors pas bien. Comment vous êtes dans la journée ? Nickel. Eh bien ça, ce n'est pas une insomnie, c'est l'ignorance de son propre sommeil. Ça existe, hein. Les gens ne se rendent pas compte. Quand vous dormez, vous ne savez pas que vous dormez. Vous savez que vous avez dormi. On perd conscience quand on dort. On s'endort, on regarde l'heure ou on ne regarde pas l'heure. Et puis le lendemain, on se réveille, on sait l'heure qu'il est en regardant le réveil. On se dit, tiens, j'ai dormi 8 heures. Mais si vous n'avez aucun repère temporel, vous avez énormément de difficultés à dire la durée de votre sommeil. Et d'ailleurs, Michel Siffre et d'autres, puisque les expériences s'étaient répétées, pouvaient dormir 14 heures à suivre en disant qu'il avait fait une sieste. Et pour des sommeils de 2 ou 3 heures, dire qu'il avait dormi toute une nuit. Un très long sommeil. Donc la durée du sommeil n'est finalement perçue que par l'horloge qui est dans la maison. Donc si vous dormez, eh bien, et que vous ignorez que vous avez dormi, vous n'avez pas cette conscience, et que ça vous gêne parce qu'il faut dormir, et que si le lendemain vous n'avez aucun problème, ça veut dire que vous avez dormi, mais que vous n'avez pas eu cette conscience de sommeil. Et ça, c'est assez fréquent. Alors les insomnies occasionnelles, ben, c'est la mauvaise hygiène de sommeil, café, l'alcool, l'exercice physique ou intellectuel intense le soir, les sorties le soir, donc là, peut-être que ce soir vous ferez une insomnie, d'endormissement, les horaires réguliers, trop de lit dans la journée, je reste au lit parce que j'y suis bien. Bien non, quand on est au lit, on est peut-être bien, mais ça, il ne faut pas se plaindre dans son sommeil alors. Parce que vous prenez des petites périodes de sommeil inconscientes, même si vous lisez, même sans en avoir la perception. Faire trop de siestes dans la journée, lié à des facteurs d'environnement, le changement de lieu, le bruit, la température de la pièce ou l'extérieur, quand il fait très chaud à l'extérieur, en été par exemple, on ne dort pas bien. La lumière, l'altitude, hein, c'est, si on va en montagne, parfois les premières nuits sont difficiles, l'organisme doit s'habituer. Donc il y a énormément de conditions pour mal dormir, mais ça il faut le savoir, ça va passer dans les quelques jours. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est attendre, éventuellement prendre un somnifère de manière très ponctuelle, c'est le seul cas où le somnifère est indiqué, mais ensuite l'arrêter et ne plus jamais le reprendre. Et moi je le déconseille complètement. Parce que même si vous ne dormez pas une nuit ou deux nuits, la troisième nuit, vous dormirez parfaitement. Donc il faut accepter le fait que le sommeil n'est pas toujours parfait. Alors quand on le dit à un insomniaque qui ne dort pas depuis 15 ans, il a des difficultés. Hein. Et ça, c'est l'insomnie chronique. Alors pour l'insomnie chronique, vous voyez, les causes sont fréquentes. Il y a des causes psychologiques, voire psychiatriques, la dépression. Alors la dépression et l'insomnie, c'est souvent lié. Attention, un enfant... Je le signale pour les gens qui ont des enfants ou des ados, un enfant insomniaque, ce n'est pas normal. C'est souvent un signe de mal-être de l'enfant, voire d'une dépression. Chez l'enfant, ça existe, chez l'ado. Hein. Donc si vous avez des enfants qui ne dorment pas bien, il y a différentes causes, mais il ne faut pas négliger une insomnie chez l'enfant. Le stress, l'anxiété, tout ça, en particulier l'anxiété. Alors parfois, on a des anxiétés, des anxieux majeurs, hein, ça c'est vraiment des troubles importants qui nécessitent des anxiolytiques, mais la plupart du temps, les gens qu'on voit et qui se plaignent au moyen de dormir, c'est une anxiété mineure, mais qui gêne, parce qu'on va ruminer le soir, on va penser à ce qu'on va faire le lendemain, ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'on aurait dû faire, le linge qui n'est pas nettoyé, ou des choses très très importantes en général, mais qui vous empêchent de dormir. Vous ruminez, est-ce que le gamin a bien fait ses devoirs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, je ne sais pas. Mais il y a aussi des insomnies qui sont liées à des causes médicales qu'il ne faut pas ignorer, mais qu'on ne peut pas toujours améliorer. Par exemple, les douleurs. Ben, si vous avez des douleurs rhumatismales, ces douleurs vous réveillent la nuit, même de manière inconsciente. C'est-à-dire que ça va alléger votre sommeil, mais vous n'avez pas perçu cette douleur. Et là, vous avez une plainte et le lendemain, vous n'êtes pas bien. Les hyperthyroïdies, c'est-à-dire lorsque la thyroïde marche trop bien, de manière excessive, ça stimule tout l'organisme, y compris les circuits de l'éveil, et vous êtes hyperactif et le cerveau travaille tout le temps. Hein. Donc ça, c'est des causes qu'il faut identifier, qu'on reconnaît. Et puis, il y a notamment les apnées du sommeil et les troubles du rythme circadien, ça, c'est des troubles de l'horloge. C'est fréquent chez les travailleurs postés, avec un poste de travail, soit le soir, soit le matin, c'est les fameux 3-8. Donc une semaine, vous êtes du matin, une semaine du soir et une semaine de nuit, par exemple. Mais votre horloge biologique, elle ne sait jamais à quelle heure elle doit se caler. Ou alors vous êtes en avance de phase ou en retard de phase. Donc ça, ce sont des insomnies qui sont finalement assez faciles à traiter puisqu'on a une cause. On sait quoi faire, en quelque sorte. Par contre, pour les insomniaques avec une insomnie dite primaire psychophysiologique, avec un tout petit degré d'anxiété, voire pas d'anxiété du tout, mais avec la peur de ne pas dormir, là, c'est là la difficulté. Et c'est là le problème des hypnotiques. Alors, vous vous souvenez de l'hypnogramme. Ce qu'on a vu tout à l'heure s'appelait un hypnogramme, la nuit. Ici, vous avez toute la nuit, pareil. Mais c'est une personne insomniaque. Vous voyez l'éveil. Alors, tout ce qui était en bleu tout à l'heure, c'est ici, le sommeil profond. Et vous voyez les nombreux éveils. Et ici, un éveil qui va durer une heure. bien cette personne, à la fin de la nuit, vous dira « j'ai pas dormi de la nuit ». Une autre personne identique pourrait vous dire « j'ai dormi parfaitement ». Quand on fait les enregistrements du sommeil, on n'a pas de lien entre ce qu'on enregistre, ça c'est un enregistrement qui l'a déterminé, un enregistrement de nuit, et la perception qu'a la personne. Donc pour apprécier apprécier ce que ressent la personne, vous avez on vous a donné une petite grille qui s'appelle un agenda du sommeil, et je vous expliquerai tout à l'heure comment vous pouvez l'utiliser de manière efficace pour apprécier votre sommeil. Donc ça, c'est des enregistrements qui montrent que là, la personne se réveille fréquemment. Si elle nous dit « je me réveille fréquemment », on va lui dire « c'est vrai ». Vous avez raison, on observe la même chose et votre plainte correspond à ce qu'on observe. Parfois, la personne vous dit « je me réveille très très souvent » et on enregistre un sommeil tout à fait normal. C'est une mauvaise perception de ses éveils. Elle considère que ses éveils sont trop longs, trop fréquents, etc. Et elle les perçoit comme étant vraiment très gênants. Alors pour l'insomnie, eh bien, il y a déjà un facteur prédisposant. Vous savez, c'est comme le poids. Il y a des gens qui prennent du poids facilement et pas d'autres. Donc il y a des gens qui ont une sensibilité à l'insomnie et pas d'autres. Donc ça, c'est un fait. Si vous êtes prédisposé à faire de l'insomnie, eh bien, vous allez faire une insomnie plus facilement qu'une autre, pour les mêmes conditions. Une personne qui a un décès dans sa famille, eh bien, elle va engager une insomnie qui va être chronique ou des problèmes de maladie chez l'enfant, etc. Et la même personne à côté, dans les mêmes conditions, enfin, le conjoint, ne fera pas d'insomnie. Hein? Donc ça, c'est une fois que vous avez cette prédisposition à l'insomnie, généralement, souvent, un petit peu d'anxiété derrière, mais mineure. C'est pas une anxiété majeure, c'est pas une anxiété pathologique, d'accord ? C'est une petite angoisse mineure. Eh bien, lorsqu'il y a un facteur déclenchant, eh bien là, on fait une vraie insomnie occasionnelle, à l'occasion d'un facteur déclenchant. Donc on était prédisposé et on fait. Ce facteur déclenchant va provoquer cette insomnie dite d'ajustement parce qu'il y a un événement qui crée l'insomnie. Puis ensuite, eh bien, pour certaines personnes, cette insomnie va disparaître et pour d'autres, eh bien, on va avoir un élément qui persiste. Je m'endormais normalement. À l'occasion de cet épisode, je mets une heure à m'endormir et ensuite ça continue. Je mets encore une heure à m'endormir ou je crois que je mets une heure à m'endormir, ce qui est pareil, ou je veux dormir plus tôt. Et le fait de penser à vouloir dormir plus tôt, ça crée une insomnie. Et puis ensuite, eh bien, ça devient chronique. Et là, la personne est en extrême difficulté parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et c'est là où elle va voir le médecin et qui lui dit, ben voilà, le problème, c'est que pour dormir, il faut prendre des hypnotiques et des somnifères. Alors voilà, il y a tout un tas de raisons pour être insomniaque. Et l'analyse de l'insomnie chronique est très complexe, en fait. Et vous êtes insomniaque ou on est insomniaque pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, par rapport à des croyances et des attitudes qui sont tout à fait erronées. Hein? Inquiétude concernant la perte de sommeil. Ça, c'est fréquent. Si je ne dors pas bien, je ne serai pas bien le lendemain. Hein? Il faut que je dorme. Donc ça, c'est une erreur monumentale. Donc on peut ne pas être bien le lendemain, effectivement, mais le surlendemain ou le sursurlendemain, on sera bien. On ne passe pas toute sa vie à ne pas être bien à cause de son sommeil. Des ruminations à propos des conséquences d'un mauvais sommeil. Il n'y a aucune conséquence particulière d'un mauvais sommeil, sauf si ce mauvais sommeil est chronique depuis des années et des années parce qu'on a eu cette attitude néfaste par rapport à son sommeil. Et on peut essayer de l'améliorer sans somnifère, ce sommeil. À condition, j'entends, qu'il n'y ait pas de pathologie telle que je vous ai décrit tout à l'heure, hein, une dépression, des apnées du sommeil, etc. Là, on parle d'insomnie sans réelle cause, ce qu'on appelle l'insomnie primaire, psychophysiologique. Et puis, on veut attendre beaucoup de son sommeil, donc des attentes irréalistes par rapport à son sommeil. On a 55, 60 ans et on veut dormir comme à 20 ans, ce n'est pas réel. C'est comme à 60 ans, on voudrait avoir le look d'une personne de 20 ans. C'est totalement irréel. Il y a des gens qui essayent, hein, mais c'est irréel. Des fausses attributions sociales à l'insomnie, au sommeil. Hein. Alors par exemple, il faut se lever tôt, c'est les gens qui se lèvent tôt qui sont les plus courageux, etc., qui gagnent le plus. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est, Si vous êtes du soir, vous n'arrivez pas à vous lever tôt. Hein, vous êtes en difficulté. Ça dépend de votre typologie. Et puis, vous avez des mauvaises habitudes. Alors ça, c'est une fois qu'on a ça, on va essayer de modifier son comportement pour mieux dormir. Et donc, on va passer un temps excessif au lit. Comme je ne dors pas, je vais me coucher plus longtemps et je finirai bien par dormir. Ben, c'est l'inverse qu'il faut faire. Des horaires de sommeil irréguliers. Je vais me coucher une fois le soir tard parce que je ne m'endors pas, puis une autre fois tôt parce que je m'endors. Ou là, je me lève parce que je suis réveillé, et le lendemain, je m'endors à 5 heures du matin, donc je vais continuer, j'en profite parce que je dors. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Des siestes dans la journée, vous savez pourquoi? Si vous faites des siestes prolongées quand on est insomniaque, eh bien, on diminue son besoin de sommeil. On le garde pour la nuit. On va faire des activités qui ne sont pas compatibles avec le sommeil. Du repassage pour les femmes, ou du jardinage le soir, ou du bricolage le soir, ça, ce n'est pas adapté. Hein, ou faire ses comptes le soir. Consommer des somnifères, ce n'est pas du tout adapté. La consommation d'excitants, si vous prenez 10 cafés dans la journée, non décaféinés, il est clair que la caféine agit et est très efficace pour maintenir éveillé. La caféine bloque l'adénosine dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Elle bloque les récepteurs à adénosine. Et donc, la caféine vous empêche de vous endormir. Alors, vous prenez le matin, puisqu'on dit toujours pas de café le soir. Donc ça, c'est connu. Mais sachez que si vous prenez votre café le matin et que vous prenez 5 tasses à café le matin, vous avez largement la dose pour ne pas dormir le soir. Hein. Donc c'est une tasse à café, deux. Alors après, il y a des gens qui prennent beaucoup de café, chez qui ça ne fait rien du tout. Donc lui, ça ne lui fait rien. Donc moi, ça ne me fait rien non plus. Non, lui, ça ne lui fait rien. Et moi, ça me fait quelque chose. Donc il faut le savoir. Et donc il y a des conséquences. Hein. Si vous êtes insomniaque vraiment, ben, vous allez être fatigué, vous allez avoir des diminutions de performance, perturbations d'humeur avec de l'irritabilité parce que le sommeil est fragmenté, parce que vous avez eu toutes ces mauvaises attitudes par rapport à votre sommeil et parfois un vrai malaise social par rapport à cette insomnie. J'arrive pas à être performant au travail, je suis mauvais, il y a un aspect négatif par rapport à soi-même. Et donc ça, c'est des retentissements psychologiques. On va même déprimer parce qu'on est insomniaque, tout simplement. Et ça va entraîner la dépression. Au départ, on n'était pas dépressif. Et maintenant, on sait que l'insomnie chronique avec des temps de sommeil de moins de 5 heures, voire moins de 6 heures, ça a des conséquences sur le rythme cardiaque, sur la tension artérielle, etc. etc. Donc des conséquences importantes qui peuvent être traitées, mais non pas par les somnifères ou de prise en compte. Et puis donc ça va induire eh bien, des états émotionnels particuliers, hein, des inquiétudes, et puis des ruminations, des pensées négatives par rapport à son sommeil. Et puis, on s'éloigne des problèmes physiologiques et on va ensuite à nouveau ruminer sur les conséquences du sommeil, etc. Et tout cet ensemble fait que la personne auto-entretient son insomnie. Et elle ne s'en sort pas. Et la seule attitude réaliste, correcte pour elle, c'est d'avoir un médicament pour dormir. Et souvent, c'est un somnifère. Alors le mieux, c'est... le coup de massue. Alors ça marche bien. Il faut avoir un... Là, c'est souvent plutôt un ronfleur, vous voyez. Alors souvent, ben, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des médicaments. Alors ces médicaments sont des benzodiazépines. Ça sont les hypnotiques ou les anxiolytiques. C'est la même chose, hein. C'est la même classe de médicaments. Hein, vous voyez, c'est des tranquillisants ou benzodiazépines, donc il y en a tout un tas. Et... le grand public, ça s'appelle les somnifères. Pour les médecins, c'est des hypnotiques, c'est la même chose. Vous voyez, c'est des benzodiazépines. Alors, il y a aussi les antihistaminiques qui sont pris, qui ne sont pas des benzodiazépines, mais qui ont une action comme anti-éveillant. L'histamine est une molécule qui est... Il y a des neurones à histamine dans le cerveau, et l'histamine est très éveillante. Très éveillante. D'ailleurs, il y a des recherches actuellement sur des médicaments antihistaminiques destinés à dormir. Mais si on prend un antihistaminique, un des effets collatéraux des antihistaminiques pour une allergie, par exemple, c'est de faire dormir. Hein ? Et il y a des antihistaminiques, notamment, vous savez peut-être, qui sont utilisés et vendus sans ordonnance, qui sont des antihistaminiques pour dormir. Les neuroleptiques, les antidépresseurs. Alors, tout ça, ce n'est pas des benzodiazépines, c'est d'autres classes de médicaments. Alors, vous voyez quelques chiffres sur la prise de médicaments. Alors, je ne suis pas sponsorisé par l'industrie pharmaceutique ni par le gouvernement pour vous citer ça. C'est simplement pour vous faire réfléchir. Ce serait bien que je sois sponsorisé, mais enfin, au moins par le gouvernement ou par l'Agence régionale de santé. 20% des 10 millions de personnes âgées consomment de façon chronique des hypnotiques ou anxiolytiques. Une personne sur cinq. C'est énorme, hein, ça veut dire qu'ici, il y en a beaucoup. Un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans et près de 40% des plus de 85 ans consomment de façon régulière des hypnotiques ou des anxiolytiques. Tout ça, c'est la même classe, hein. L'anxiolytique, en fait, c'est qu'il a une action, c'est les mêmes médicaments avec des petites différences malgré tout. Donc les anxiolytiques, c'est des benzodiazépines qui ont une action plus forte sur l'anxiété. Les hypnotiques ont moins d'action sur l'anxiété, ils jouent sur l'anxiété, mais plus sur le sommeil. Vous voyez, il y a des petites nuances. Mais parfois, ces nuances disparaissent en fonction des individus. Et vous voyez qu'il y a plus de 200 spécialités qui concernent cette affaire-là. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment... si on peut faire autrement, on va essayer de faire autrement. Donc ces familles de médicaments sont vraiment très, très, très bien structurées, on les connaît. Les laboratoires ont beaucoup, beaucoup développé ça pendant les années 70. Après les barbituriques, dans les années 60, on a développé ces hypnotiques, ces benzodiazépines, qui étaient une sorte de panacée. Et on n'a pas réfléchi. Et dans les années 60-70, il n'y avait pas de recherche sur le sommeil. Il y a très, très peu de laboratoires au monde qui travaillaient sur le sommeil. Ça a commencé à se développer dans les années 80, la recherche sur le sommeil. Vous voyez, c'est très, très, très récent. C'est pour ça qu'on ne connaît rien sur le sommeil. Et on commence juste à connaître. Alors, dans le cerveau, il y a une molécule qui s'appelle le GABA. Hein, le GABA. Le GABA, c'est une molécule qui empêche les neurones de fonctionner. C'est un inhibiteur. Ça empêche les neurones de fonctionner, pour être très, très approximatif. Mais si vous mimez l'action du GABA, eh bien, alors le GABA, c'est le neurotransmetteur, c'est la molécule aussi qui va agir sur les centres du sommeil. Donc les benzodiazépines, ce qu'elles font en fait, c'est qu'elles miment l'action de ce GABA. Donc elles remplacent le GABA, ou elles se surajoutent au GABA, à cette molécule. Donc elles vous font dormir, ou elles diminuent l'anxiété, elles empêchent l'anxiété en empêchant les circuits de l'anxiété de fonctionner. Donc que ce soit l'anxiété ou le sommeil, vous voyez, tout ça, c'est les propriétés des benzodiazépines. Donc c'est sédatif, c'est anxiolytique, c'est myorelaxant, c'est la relaxation musculaire. Hein, ça a une action anticonvulsivante, donc dans l'épilepsie, on utilise ça aussi. Et ça a une fonction aussi de l'oubli. Ça, c'est amnésiant, c'est-à-dire que ça a une fonction dans la mémoire. Bon, ça, je vais les différences des benzodiazépines, vous voyez. Hein, benzodiazépines anxiolytiques, et là, c'est les hypnotiques. Donc ça favorise l'endormissement et ça prolonge la durée du sommeil. Donc tout ça nous fait penser que finalement, c'est une molécule intéressante. Pourquoi finalement faire un petit topo, une conférence sur ne pas utiliser les somnifères, parce que je suis en train de vous dire que ça vous endort plus facilement, ça prolonge la durée du sommeil, seulement la qualité du sommeil n'est pas bonne, vous avez moins de sommeil profond, pas pour les dernières molécules, mais surtout ça va agir avec des effets indésirables. Alors ces effets indésirables, eh bien, parfois vous avez chez le sujet âgé une excitation. Au contraire, il s'agite, et c'est très fréquent dans les institutions, hein, comme il s'agite, on leur en donne. Oui. Une augmentation de l'agressivité, parfois, c'est un effet paradoxal de l'hypnotique. Au lieu d'endormir, au contraire, il excite. Vous savez, toujours, parfois, il y a des effets inverses. Et puis, on va devenir tolérant. On va s'habituer, en quelque sorte, aux médicaments. Et ça, au bout de 2 à 4 semaines, le médicament n'a plus d'efficacité. Au bout de 15 jours. Et la recommandation, c'est 15 jours de traitement maximum. Donc l'insomnie transitoire et pas chronique. Parce qu'après, ça ne sert à rien. Voilà. Vous êtes informés. Ça ne sert à rien, mais malgré tout, il y a cette prise du médicament le soir qui a un effet sur le psychisme, sur la psychologie de la personne. Et si je ne prends pas mon médicament, je ne dormirai pas le soir. Et donc, je dois le prendre parce que je ne dormirai pas. Et si je suis au lit sans avoir pris mon médicament, je ne dors pas parce que je n'ai pas pris mon médicament. Donc, il y a un effet rituel d'endormissement et votre organisme s'est habitué à ce rituel. Donc, il faut le modifier. Donc, il y a différents rituels chez l'enfant. Il y a le nounours, il y a la lecture par le conjoint, ça peut être intéressant. C'est par la maman chez l'enfant. On peut boire une tisane, pas en grande quantité parce qu'il faudra se lever la nuit pour pisser. Donc, changer le rituel. Changer le rituel, une petite tasse de lait si on veut, n'importe quoi, mais Alors, si on veut arrêter ce médicament, cette hypnotique qu'on prend depuis des années et des années, je parle de l'hypnotique, l'anxiolytique, parfois dans la journée, évidemment, ça va diminuer les angoisses, ça faut pas, si, surtout si on est anxieux majeur, hein, c'est pas, il faut pas les arrêter comme ça. Mais on va pouvoir l'arrêter, mais jamais d'un seul coup. Jamais d'un seul coup. Toujours très, très, très progressivement. Et vous voyez, le risque, c'est la dépendance après 3 mois de traitement. Alors, vous voyez, dépendant aux somnifères après 3 mois. Alors, quand on voit des patients qui prennent des médicaments depuis 10 ans, 20 ans, oui, ou 30 ans, hein. Moi, j'ai vu un autre jour, depuis 1960, il a commencé par les barbituriques, et il en prend toujours, hein. Pas des barbituriques, mais il a remplacé au fur et à mesure. Alors, ça a évolué, hein. Les derniers hypnotiques, le Stilnox et l'Imovane, par exemple, sont moins sévères que ces. Mais il y a toujours une accoutumance. Finalement, ça a été vendu par les laboratoires comme étant de meilleure qualité, il y a un peu plus de sommeil profond parce que les hypnotiques suppriment le sommeil profond. Donc on fait plus de sommeil ou très peu. Les antidépresseurs suppriment le sommeil paradoxal. Et si on fait un sevrage trop rapide, et souvent s'arrêter de prendre ce médicament, c'est difficile par crainte de refaire une insomnie. Mais si on l'arrête brutalement parce que le professeur Pacro qui est venu ce soir nous a dit qu'il fallait arrêter ce machin qui était. Eh bien, ça c'est clair, on fait une insomnie. Et une insomnie dite de rebond, c'est-à-dire qu'elle va être encore plus sévère que ce qu'on avait avant. Donc il y a énormément de gens qui font une tentative d'arrêt du médicament. Donc on l'arrête d'un seul coup. Tiens, ce soir, je ne prends pas mon Lexomil, finalement, c'est bien. Ou mon Imovane, ce que vous voulez. Donc cette benzodiazépine, je ne la prends pas. Eh bien, cette nuit-là, vous ferez effectivement un rebond d'insomnie parce que votre organisme s'était habitué et lui, il n'a plus les molécules, il n'a plus les récepteurs pour remplacer cette molécule que vous lui donnez tous les jours. Et il y a un rebond d'insomnie, et la personne fait tout de suite l'association à la non-prise du médicament le soir et à l'insomnie de la nuit qui suit la non-prise du médicament. Et elle se dit le surlendemain, eh bien finalement, cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et ça, j'en peux pas, j'en peux plus, je suis très fatiguée. Dans la journée, j'ai été épuisée. Donc le surlendemain, elle reprend un médicament, donc un quart, voire un demi, parce qu'elle n'a pas dormi la nuit précédente. Et on augmente les doses progressivement. Donc ça, il ne faut jamais arrêter un médicament hypnotique brutalement. Et on recommande sur plusieurs mois. Donc c'est le grattage à la lime à ongles. Un petit peu tous les soirs. Et à la fin, le comprimé est réduit à l'état de poussière. Et on remplace par autre chose ou par rien si on est capable de remplacer par rien. Donc ce rituel-là, on peut le faire disparaître. À condition aussi d'associer, vous savez, si vous voulez m'écrire. Y a des consignes, des conseils qui sont donnés. Prise des repas réguliers, ne pas manger gras, etc. Avoir des repas équilibrés, 5 fruits, 5 légumes, etc. On vous donne tous ces conseils. Il y a toujours des gros. Et ils les connaissent, les conseils. Mais il y a des gros, et pourquoi? Parce que les conseils ne sont pas strictement. Et à un moment donné, on va dire, tiens, ça, je vais faire un bon repas. Eh bien, ça, c'est néfaste. Alors, la personne qui n'est pas sensible. Elle peut faire un bon repas quand elle veut, elle n'est même pas obligée de suivre les régimes. Mais les personnes sensibles, et l'insomnie c'est le cas, il y a des personnes sensibles à l'insomnie, il faut qu'elles respectent les consignes. On peut même avoir un syndrome de sevrage à l'arrêt du médicament avec excitabilité et une sensation particulière. Et ces effets indésirables, vous voyez, ils sont fréquents. Et un des effets indésirables, c'est l'endormissement au volant. Alors pourquoi? Parce que ces médicaments qui sont pris ont une durée de vie qui varie en fonction de la molécule. Il y a ce qu'on appelle des demi-vies, des durées de vie, la moitié de la disparition du médicament qui peut se faire en 2 ou 3 heures pour les médicaments les plus récents, comme le Stilnox, ou alors en 10 ou 20 heures, voire 48 heures pour certaines benzodiazépines, ou 10 heures. Le Lexomil, je crois que c'est 8 heures ou 10 heures. Donc quand vous prenez un médicament le soir, il faut savoir que parfois, 10 heures plus tard, vous en avez encore la moitié de la dose dans le sang. C'est la demi-vie, hein, c'est la disparition de la moitié du médicament. Donc si vous prenez le volant, vous avez un risque de somnolence. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes prennent le médicament le soir, elles se réveillent dans la nuit, et elles reprennent un médicament dans la nuit, un hypnotique, un somnifère, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à se rendormir. Et donc, comme j'ai pris qu'un quart de Lexomil hier soir, je peux bien en prendre un quart pendant la nuit. Donc là, on rajoute. Alors, un quart, ce n'est pas beaucoup, mais ça se surajoute à celui qu'on a pris la veille. Et donc, on a un risque de somnolence dans la journée, de ne pas être très, très bien à cause de la prise de ce médicament dans la nuit. Et surtout s'il a une demi-vie longue. Hein. Alors le médecin vous le dit, il vous donne en général des demi-vies courtes, c'est-à-dire les plus récents, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, vous voyez, la sédation diurne, ça c'est les... Puis il y a d'autres conséquences, vous voyez, les démarches titubantes, un peu comme si on était ivre, des chutes, et ça chez les sujets âgés, c'est un vrai problème parce que ça facilite une marche difficile. Déjà, si on ne marche pas bien, ça accentue cette tendance à marcher difficilement, et on peut tomber, se prendre les pieds dans le tapis plus facilement. Donc on supprime les tapis aussi. Hein. Et puis on peut avoir des troubles de la mémoire. Donc les gens se plaignent de troubles de la mémoire, mais ils prennent des hypnotiques qui accentuent éventuellement ces troubles de mémoire. Donc vous voyez, ils ne penseront pas du tout à l'hypnotique qui est pris. Mais quand on était plus jeune, ça ne gênait pas. Mais quand on vieillit, ça accentue. Donc il faut savoir tout. Et parfois on a des erreurs, la confusion mentale c'est quand même plus exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc des troubles du raisonnement, on fait des raisonnements erronés. Donc ces somnifères, ou hypnotiques, ou benzodiazépines, c'est sûrement pas dans l'insomnie chronique. Ça, c'est non. Et la seule indication, c'est l'insomnie occasionnelle, traitement pour 15 jours maximum. Et le mieux, c'est quelques jours et à la demande. Voilà, on a un événement, on prend ça, et puis on en prend un ou deux soir, et puis ensuite on arrête. Et on ne s'habitue pas. Mais le problème, c'est quand on l'a pris une fois ou deux fois, on s'est bien rendu compte qu'on avait mieux dormi, et on a tendance à le reprendre facilement. Oui. Non, ce n'est pas une benzodiazépine, la myosérine, c'est un relaxant, c'est une classe... Comment ? Oui, c'est un myorelaxant, oui. Il n'y a pas de raison de prendre un médicament pour dormir. Il n'y a aucune raison. Quel que soit le, alors même les antihistaminiques ou les myorelaxants qui vont détendre vont avoir une action ponctuelle et ensuite on va s'habituer à ce médicament. Et cette habitude n'a pas lieu d'être. Alors ce que vous devez faire en fait, et c'est ce que vous avez, ce qu'on vous a donné, c'est mieux connaître son sommeil. Et pour mieux connaître son sommeil, vous avez à votre disposition, sur les sites internet qui donnent des conseils sur le sommeil, c'est l'agenda du sommeil. Alors cet agenda du sommeil, c'est destiné à être rempli pour bien comprendre ce qui se passe sur plusieurs jours, plusieurs semaines. On ne peut pas se souvenir de la qualité de son sommeil ou de l'heure à laquelle on s'est couché 15 jours plus tôt. Donc on va remplir cet agenda du sommeil tous les matins, sans rien noter dans la nuit, sans rien noter dans les 24 heures qui précèdent. Hein, c'est juste, on va essayer de se mémoriser ce qui s'est passé par rapport à son sommeil. À quelle heure je me suis couché hier soir et à quelle heure je me suis réveillé dans la nuit. Est-ce que je me suis réveillé ou pas? À quelle heure je me suis levé le matin? Est-ce que j'ai fait la sieste? Et on note ça sur l'agenda. Chaque ligne représente une journée. Vous voyez? Donc là, c'est de 20h à 20h. Tous les agendas n'ont pas la même. L'agenda que vous avez est différent. Je n'en ai pas sous la main, vous voyez. C'est 12h, 12h. Merci. Hein, vous voyez, c'est 12h, 12h. Donc, quand vous arrivez à 20h ici ou 12h sur l'agenda que vous avez, eh bien, le jour continue ici. Et vous allez assurer toutes les zones de sommeil réelles. Réellement. Le sommeil réellement pris. Quand vous vous couchez le soir, on fait une flèche vers le bas. C'est l'heure du coucher, c'est surtout l'heure d'extinction des lumières. Si vous vous couchez, vous lisez 2 heures au lit, ça, c'est de l'éveil. Donc la flèche ici, c'est l'heure d'extinction des lumières. Et le matin, c'est l'heure d'ouverture des lumières. Et entre les deux, on va assurer. Vous voyez que cette personne n'a pas assuré le début, elle a mis une demi-heure, une demi-heure pour s'endormir. Ça a été assuré jusqu'à 2 heures du matin. Et jusqu'à 4 heures du matin, elle a eu le sentiment de ne pas dormir. C'est le sentiment que vous avez de votre nuit. Mais on ne note pas pendant la nuit, évidemment, ce qui a été fait. C'est le lendemain matin. Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient. Donc vous êtes capable de dire le lendemain matin ce qui s'est passé la nuit précédente, voire la journée, si vous avez fait la sieste la veille, vous vous en souvenez. Mais au-delà de 2, 3, 4 jours, on a des difficultés à se souvenir. Donc on fait succéder comme ça les nuits et les jours. Ça, c'est 24 heures. Si on fait une sieste, pareil, on marque les périodes de sommeil. Et on a comme ça une vue globale de ses heures de coucher, de ses heures de lever, de la durée de son sommeil, il suffit d'additionner. Vous voyez, cette nuit-là, cette personne a dormi, mettons, 1 heure, 3 heures, et là, 1 heure. Elle a dormi 4 heures. Elle est restée au lit à peu près le double. Donc, elle a dormi 4 heures sur 8 heures. L'efficacité de son sommeil a été de 50%. On compte l'efficacité du sommeil, c'est le temps réellement dormi sur le temps passé au lit. 50%, ce n'est pas beaucoup. On estime que l'efficacité à peu près correcte, c'est 80, 85, 90% du temps passé au lit à dormir, réellement. Ensuite, il y a des nuits où elle dort beaucoup mieux. Vous voyez ici, par exemple, 1 heure, 2, 4, 6, 8, 9 heures de sommeil. Et vous le voyez, le matin, elle met R, c'est-à-dire c'est des petits réveils. Bah, 9 heures déjà à dormir, c'est beaucoup. Hein ? Donc, il est clair que le matin, elle est restée ici 2 heures au lit pour rien. Mais elle devait être bien. D'accord ? Et on apprécie, vous voyez, on apprécie. Là, elle a très, très bien dormi. Elle était chez ses parents, peut-être moins angoissée, etc. On fait une note et on apprécie la qualité de sa nuit, etc. Donc, avec cette visualisation sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il faut au moins 15 jours pour apprécier, on va pouvoir se corriger soi-même. Et si je vous donne cet agenda du sommeil, c'est que les médecins du sommeil, en particulier ceux qui traitent l'insomnie, utilisent l'agenda du sommeil comme élément clé pour traiter les patients. C'est-à-dire qu'on fait faire un bilan, c'est-à-dire ce que je vous explique, pendant 15 jours, 3 semaines, on demande à la personne de prendre un agenda, on lui explique comment remplir, ce que je viens de faire devant vous, et ensuite, elle revient et on commente l'agenda du sommeil avec cette personne. Et on lui dit, mais vous voyez ici, et vous allez le faire avec moi. À quelle heure vous vous êtes couché là, là et là? Vous voyez? Et à quelle heure vous vous levez? C'est très irrégulier. Donc là, il y a un problème pour l'horloge. Elle ne sait pas l'horloge, si elle doit vous réveiller, à quelle heure? À 10 heures, ici? Ou là, ici, à 7 heures du matin? 7 heures? Donc, il y a une trop grande irrégularité. On va supporter une demi-heure pour les gens qui ont des problèmes. Hein. Une demi-heure. 7 heures, 7 heures et demie, 6 heures et demie. Ça fait déjà une heure de battement. Donc, si on se réveille à 7 heures, 7 heures et demie maximum, 6 heures et demie minimum. Ça fait une heure de battement. C'est presque un cycle de sommeil. C'est déjà beaucoup. Donc, on va essayer de faire un calage sur l'horloge. Et ensuite, on s'aperçoit que finalement, sur 3 semaines, en comptant les heures de sommeil, on a dormi globalement 6 heures par nuit. Et qu'on était au lit 8 heures. Et que je me plains d'être au lit et de ne pas dormir. Ben vous avez trouvé la solution. Vous allez restreindre votre temps au lit. Vous passerez 6 heures au lit au lieu de 8 heures. Et vous dormirez mieux quand vous serez au lit. Donc on compte les heures de coucher. Vous voyez là, il s'est couché ici à 3 heures du matin. Et puis là, il s'est relevé. Là. Enfin là, c'est une erreur, c'est un coucher. Et là, il s'est couché, vous voyez, il était 21h. Entre 21h et 3h du matin, quand on a des problèmes de sommeil, l'horloge ne sait pas à quel moment elle doit déclencher le circuit du sommeil. Elle ne sait pas. Ce sera trop tôt ou trop tard, mais pas au bon moment, pas celui que vous attendez en tout cas. Et puis, vous voyez, de nombreux éveils. Bref, tout ça, on le compte et on va regarder les heures de lever. Regardez ici, c'est très, très, très grande irrégularité des heures de lever. Alors, ça peut être lié au travail de la personne aussi. Hein. Mais on a une idée de son sommeil, de son propre sommeil. Et on ne se fait pas une idée a priori. Tiens, cette nuit, j'ai mal dormi, donc toutes mes nuits sont mauvaises. Ce n'est pas forcément vrai. Mais on se souvient des mauvaises nuits, on se souvient plus rarement des bonnes nuits. Hein, on se souvient des inconvénients en général, parce que c'est une question de survie. Et vous voyez, parfois, c'est plus facile à analyser. Mais là, le sommeil est à peu près continu. Il n'y a pas de discontinuité, de fragmentation au cours du sommeil, mais il y a quand même une irrégularité dans les heures de coucher et les heures de lever. Vous voyez que très très rapidement, on peut avoir une idée de ce qu'on fait en termes de coucher, de lever, de durée de sommeil. Et cet agenda de sommeil est très très utilisé. Et franchement, ça ne coûte rien. Vous prenez une feuille quadrillée, vous en avez donné, vous pouvez le faire pendant un mois, pendant 2 mois, et vous corrigez vous-même. Et vous corrigez vous-même. Et ça, c'est l'élément clé. Et on va essayer d'améliorer ensuite, une fois qu'on a son agenda du sommeil, on va essayer d'améliorer ses comportements par rapport à son sommeil. Comportement, les actions comportementales et la psychologie. Alors, on a des horaires irréguliers, on a du temps au lit trop trop long, excessif, on a des activités incompatibles avec le sommeil, on est trop éveillé parce qu'on a pris, par exemple, beaucoup de café, eh bien, on va avoir un comportement qui va se modifier. Si on est trop au lit, il va falloir restreindre son sommeil, son temps au lit. C'est la restriction du temps au lit. Contrôler le stimulus, lit-sommeil. Je vais au lit quand j'ai envie de dormir. etc. On va essayer de se relaxer le soir. Et puis, on va essayer de se corriger sur l'aspect cognitif, les attentes irréalistes, ne pas anticiper les choses, surtout si on est anxieux. On va essayer d'adapter, avoir des stratégies adaptées à la qualité ou ce qu'on veut obtenir sur le plan de son sommeil. Donc ça, c'est les restructurations cognitives. Et puis, on va jouer aussi sur l'hygiène de sommeil. On parle d'hygiène de sommeil comme on parle d'hygiène dentaire, d'hygiène de sport, etc. Hygiène alimentaire, hygiène de sommeil. Il faut entendre ce mot et comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire se comporter de manière adaptée pour avoir un sommeil de qualité. Alors, la restriction du temps passé au lit, c'est simplement une petite privation de sommeil. Donc, vous avez compris que le besoin de sommeil, c'était un besoin qui s'accumulait quand on était éveillé. Plus on est longtemps éveillé, plus on va avoir envie de dormir. Donc, si on est 10 heures au lit et qu'on dort 10 heures, on est moins longtemps éveillé. Vous êtes d'accord? Donc, on va créer une petite privation de sommeil initiale, surtout quand on est dans une insomnie chronique, de manière à favoriser l'endormissement. Donc, on va créer un besoin supplémentaire. On va augmenter le besoin de sommeil en prenant moins de sommeil que ce qu'on a besoin. Donc, on est longtemps éveillé. Plus longtemps éveillé, le sommeil, quand il arrivera, il sera plus fort pour prendre la place de l'éveil. Alors ça permet un bon contrôle du stimulus lit-sommeil. C'est-à-dire que si je suis réveillé à 7 heures du matin et que je m'endors à 23 et que je vais me coucher à 23 heures, pendant tout ce temps-là, je ne dors pas. De 23 heures, je me couche et je me réveille à 7 heures du matin. Et mon agenda de sommeil me dit qu'en fait, sur ces 8 heures au lit, 23 heures, 7 heures, parce qu'il m'a dit de me coucher régulièrement et de me lever régulièrement, 23 heures, 7 heures, donc ça me fait 8 heures au lit. Mais mon agenda, malgré tout, me dit que j'ai dormi que 6 heures. Donc on va restreindre son sommeil pour n'être que 6 heures au lit et non pas 8 heures. Donc si je veux me lever à 7 heures, à quelle heure je dois me coucher? 1h du matin. Et là, il n'est pas bien, il nous dit de nous coucher à 1h du matin parce qu'on doit se coucher tôt. Non, il n'y a aucune obligation. 1h, 7h, si c'est 7h l'heure de réveil que vous voulez, ça vous fait 6h de sommeil. Et c'est ce que vous dormez puisque c'est ce que vous avez écrit sur votre agenda. Et vous n'en êtes pas mort parce que vous vivez depuis 3 semaines avec 6h de sommeil toutes les nuits. Vous êtes d'accord? Ou 5h, hein, on ne va pas descendre en dessous de 5h. Donc, on va surtout agir sur le réveil, mais pas sur l'endormissement qui échappe au contrôle volontaire. Donc, on peut renforcer le synchroniseur lumière en mettant de la lumière éventuellement le soir pour s'empêcher de dormir. Donc, on va s'aider de l'agenda du sommeil. Donc, on va appliquer les règles. Je me couche à heure régulière, je me lève à heure régulière. Et comme ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai fait mon agenda de sommeil, j'ai compté mes heures de sommeil. Et je constate que je ne dors que 5 heures ou 6 heures de sommeil. Si je dors 3 heures ou 4 heures, attention, il y a une très très grande chance que vous ignorez le temps dormi. On ne peut pas dormir que 3 heures par 24 heures de manière continue. Ça n'existe pas. Hein, les plus courts dormeurs, c'est 5 heures. 4 heures et demie, 5 heures. Donc si vous en êtes à 1 heure, 2 heures, 3 heures de sommeil pendant 3 semaines et que vous êtes bien dans la journée ou pas trop mal, c'est que vous faites une mauvaise appréciation de votre sommeil. Donc, l'objectif est d'améliorer le rapport entre le temps passé au lit et le temps réel de sommeil. Ça, c'est l'efficacité du sommeil. Et il faut obtenir un temps au lit quasi équivalent au temps réel de sommeil que vous inscrivez sur l'agenda. C'est vous qui le dites, ce n'est pas le médecin. Hein. Le médecin, il vous voit de temps en temps pour contrôler, hein, c'est tout. Donc, les consignes, c'est maintenir une heure de lever régulière. C'est l'heure de lever qui cale le plus l'horloge biologique. Hein. Donc si vous voulez pas vous lever à 7 heures, ben vous levez plutôt à 6 heures. Mais une fois que vous avez décidé que c'était 6 heures, vous vous y tenez. Hein. Il faut s'y tenir parce que si on fait 7 heures une fois, 5 heures le lendemain et 10 heures le surlendemain, c'est comme si on faisait rien. D'accord ? C'est comme si on fait un régime une journée pour le poids et puis que le lendemain, on s'avale 3 steaks et 2 poulets. Hein. C'est la même chose. Donc on va retarder l'heure de coucher parce que l'horloge est moins sensible à l'heure de coucher et c'est plus facile de résister à l'envie de dormir le soir. Donc attention ! Si on se couche plus tard, le sommeil peut arriver. Il faudra résister à l'envie de dormir. Il faudra résister et donc éventuellement, parce que si on se couche à 1h du matin, c'est très tard. On va faire une activité vers 21h, pour s'empêcher de dormir. Mais arrivé à 1h du matin, vers minuit, minuit et quart, on commence à se mettre au calme pour s'endormir à 1h. Hein ? ne pas faire de sieste, conserver un temps passé au lit plus de 5 heures. Il faut quand même plus de 5 heures, voire 6 heures en lit. Le mieux, c'est 6 heures, à mon avis. C'est en fonction de l'agenda. Et on va augmenter le temps passé au lit par palier de 15 minutes ensuite. Une fois que vous avez eu ce besoin de sommeil plus important, on va au lit. Et là, franchement, on a un besoin de sommeil qui est tellement fort qu'on s'endort tout de suite, dès qu'on va au lit. Ça va durer une semaine sans problème. Mais comme on est malgré tout en insuffisance de sommeil, on va, dans la journée, avoir envie de dormir peut-être un peu. Parce qu'on a un besoin de sommeil qui n'est pas assouvi. Donc dans ces cas-là, quand on commence à voir qu'on dort tout le temps, réellement pendant le temps passé au lit, on a une efficacité qui est à 85 ou 90%, on va pouvoir réaugmenter le temps passé au lit. Mais par petits paliers, 15 minutes. Donc on se réveille à 6h ou 7h du matin, on se couche à 1h du matin, et là on va se coucher à 1h moins le quart, ensuite minuit et demi, ensuite minuit et quart. Progressivement pour augmenter et revenir à son besoin de sommeil réel. Si c'est 7 heures, on va revenir à 7 heures de sommeil. Mais 7 heures de sommeil, c'est vite passé. Hein. C'est, vous voyez, ou 8 heures. La moyenne en France, c'est 8 heures. Et c'est dans le monde entier, c'est 8 heures. Mais 7 heures, 7 heures et demie, 8 heures, c'est à peu près pareil pour l'efficacité dans la journée. Hein. C'est à vous de trouver. Donc le contrôle du stimulus lit-sommeil. Aller au lit seulement quand on est somnolent. Si c'est trop tôt, on évite de s'endormir, on fait une activité, on marche, etc. Si c'est trop tôt, si on a envie de dormir à 20 heures, on ne dort pas. Mais ne pas rester dans son lit si on ne dort pas au bout de 15 à 20 minutes. Vous allez vous coucher à 1h du matin parce que c'est l'heure à laquelle vous avez décidé d'aller vous coucher. Et puis là, vous ne dormez pas. Et ça vous énerve un peu parce qu'on m'a dit qu'à 1h du matin, je devais dormir et je ne dors pas. Pourquoi je ne dors pas, etc. Ce n'est pas grave. Plutôt que de tourner dans son lit, on attend un petit peu parce que le sommeil, normalement, je vous l'ai dit, c'est 15, 20, une demi-heure. On attend 15 à 20 minutes. Si on ne dort toujours pas, on se lève. On fait une activité calme, lecture, tranquille, pas dans le lit, ailleurs. Et on attend le sommeil revenir. Et ça, ça peut prendre une heure et demie. Parce que c'est des cycles. Donc vous avez loupé le cycle d'endormissement. Et vous allez vous coucher. Et si ça ne vient pas, on recommence. Donc on peut passer une nuit blanche. Mais à 7h du matin ou 6h du matin, l'heure que vous avez choisie, il faut vous lever et ne plus dormir. Vous voyez, vous pouvez être en difficulté au début de ce traitement. Ou de cette façon de se comporter, puisqu'on a une restriction du temps de sommeil. Donc, mais il faut agir comme ça pour recaler son horloge et son organisme. Et retourner se coucher lorsque les signaux de sommeil apparaissent, paupières lourdes, bâillement, le livre qu'on était en train de lire qui tombe, on n'arrive plus à comprendre ce qu'on est en train de lire, etc. Les yeux qui piquent, etc. Réserver le lit et la chambre pour le sommeil. Donc les chambres qui sont équipées de télé, d'ordinateur, d'un animal aussi, parfois. Ça fait du bien, un animal, ça tient compagnie, mais ça empêche de dormir pour un insomniaque. Puisque ça le réveille, surtout quand on a le sommeil léger de deuxième nuit. L'animal, lui, se lève, il fait ce qu'il a à faire, il revient, mais vous, il vous a réveillé. Et donc, ça peut être gênant ou rassurant. Ça dépend des gens, mais ça, c'est à vous de juger. Se lever le matin à la même heure, ne pas faire de sieste dans la journée. Vous voyez qu'on redit plusieurs fois la même chose. Et puis changer ses croyances sur la durée du sommeil. Moi, il me faut 9 heures pour être bien, il me faut 9 heures. Ben voilà, si je n'ai pas mes 9 heures, je ne suis pas bien. Ça, c'est une croyance sur son propre sommeil. Est-ce que vous avez réellement identifié qu'il vous fallait 9 heures? Il vous faut 9 heures parce que vous avez peut-être lu dans un magazine, c'est 9 heures ou 8 heures, ou parce que vous pensez qu'il vous faut 9 heures. Mais si vous faites l'analyse de votre sommeil, à différents moments de l'année, vous apercevez que ce n'est pas 9 heures, que vous dormez toujours que 7 heures. Pourquoi vous voulez être 9 heures au lit en train de dormir alors que vous avez besoin de 7 heures? Dormez 7 heures. Donc il y a des croyances sur la qualité du sommeil par rapport à la qualité du jour. Si je ne dors pas bien cette nuit, je ne serai pas bien dans la journée. Ça, c'est très très fréquent. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Sauf si ça se répète, effectivement, au bout de 2, 3, 4 jours, là, on n'est pas bien dans les insomnies transitoires et occasionnelles. Évitez de blâmer l'insomnie pour tous ces malheurs. C'est très fréquent. Il y a un événement particulier que vous jugez comme négatif, c'est parce que je n'ai pas bien dormi. C'est à cause de mon sommeil. Hein, je ne fais pas ceci parce que je ne peux pas le faire vu que je ne dors pas bien. Donc tout est rattaché à un mauvais sommeil. Et ça, c'est très très important, ne pas faire un drame d'une nuit d'insomnie. Bon, vous faites votre régime alimentaire parce que vous voulez maigrir. On vous a dit, il faut manger ceci, manger cela, et tous les jours avec un régime. Et vous avez une fête de famille. Vous n'allez pas appliquer le régime le jour de la fête de famille, donc vous faites un extra. D'accord ? C'est pas grave, le lendemain, vous recommencez le régime et vous continuez à maigrir. C'est pas parce qu'une fois, donc là c'est pareil, c'est pas une mauvaise nuit, pas d'inquiétude. L'organisme prend le sommeil dont il a besoin. Souvenez-vous, hein ? Et il faut savoir développer une certaine tolérance aux effets de la privation de sommeil. Parfois, on est un petit peu somnolent ou on est un peu irritable. Et on le sait, c'est parce qu'on n'a pas bien dormi. Donc, on n'est pas toujours parfait par rapport au sommeil. S'affranchir de ses propres pensées sur le sommeil. Hein. Il faut savoir identifier des pensées négatives. Par exemple, évaluation, interprétation erronée. Moi, cette nuit, je ne dormirai pas bien parce que y a un événement dans la journée. Donc j'anticipe, je sais que cette nuit je dormirai pas bien, parce que c'est aujourd'hui, y a un tel qui est passé me voir, ou j'ai reçu tel courrier, ou il y a eu tel événement dans la journée, donc je dormirai pas bien cette nuit. C'est même pas la peine que j'aille me coucher, je dormirai pas bien. Alors je vais prendre un hypnotique pour me faciliter la chose. Donc on anticipe sur la mauvaise nuit, on n'en sait rien du tout. Vous savez, le sommeil, ça, on ne sait pas du tout. Hein. On va avoir des ruminations excessives, donc ça c'est le soir, on n'arrive pas à dormir. Donc on pense, ça c'est un effet excitateur. Et plutôt que de faire autre chose, on reste au lit à penser. Donc plutôt que de penser, on fait autre chose, on se lève, on va prendre un livre, on lit tranquillement un magazine, et pas un livre policier qui vous amène à tourner les pages jusqu'à la fin de la nuit. Et puis on va focaliser sur des choses de manière très très sélective qui, pour ces personnes-là, sont rattachées au sommeil. On focalise sur le fait que il s'est passé ça dans la journée, et donc c'est pour ça que j'ai pas bien dormi dans la nuit. Alors faut-il vraiment traiter un mauvais sommeil ? En général, c'est l'absence de traitement qui est la norme. On ne devrait pas traiter un mauvais sommeil. C'est pas une maladie que de mal dormir. Voilà. Donc une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien c'est pas la peine de traiter une non-maladie. Hein, il y a des gens, par exemple, qui sont somnambules. C'est un fait. C'est pas une maladie que de parler la nuit. On ne traite pas les gens qui parlent la nuit. Ça, c'est un fait particulier. Je sais pas, moi, si vous marchez avec les jambes écartées, c'est pas une maladie. On va pas vous donner un traitement pour rapprocher vos jambes quand vous marchez. Donc le mauvais sommeil, c'est pas une maladie. C'est un inconvénient quand on le ressent, mais c'est pas une maladie. Ça peut être une maladie si on a des pathologies derrière, comme la dépression, etc. Alors souvent, on va agir de manière assez passive. On conseille la lecture, la relaxation, ne rien faire. Si on est patient et pas anxieux, on attend. Voilà. Très, très, très fréquemment, les gens attendent le sommeil au lit sans bouger. Et ils finissent par se rendormir au prochain cycle. Mais l'insomniaque ne le sait pas, ça. Hein. Mais ici, il y a énormément de gens, j'en suis sûr, qui attendent le sommeil la nuit sans bouger. Bon, ils regardent le réveil, ça fait une heure que je ne dors pas. Bon, voilà, ça fait une heure que je ne dors pas. Oui ? Parce qu'on est dans une situation où on est en contradiction avec une position de sommeil et un état d'éveil de lecture. Et en plus, pour lire au lit, il faut de la lumière. Hein ? Donc, il faut toujours mettre toutes les chances de son côté. Donc, je suis au lit pour dormir dans des situations de sommeil. Si je n'ai pas envie de dormir, je ne suis pas au lit. Il faut réassocier le lit à son sommeil, ou le sommeil à son lit. Donc, quand on a des difficultés, on ne fait rien d'autre que de dormir au lit. Si je n'ai pas envie de dormir, je ne suis pas au lit. Ça peut être, si. Alors, ça peut être tout à fait un état de, un rituel d'endormissement pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on lit au lit. Hein, et puis, quand on a le livre qui tombe ou qu'on s'endort, eh bien, on ferme la lumière. Ça, c'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous lisez un livre pendant 2 heures, vous éteignez la lumière et qu'ensuite vous êtes une heure, alors lire au lit, vous êtes une heure à ne pas vous endormir parce que vous réfléchissez à ce que vous avez lu. Enfin, je ne sais pas. Là, c'est un vrai problème. Donc, s'il n'y a aucun problème, on ne change pas. Un quart d'heure avant de dormir, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. C'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas conseiller ce type de comportement à une personne qui se plaint de ne pas s'endormir le soir. On ne va pas lui conseiller de lire au lit. On lui conseillera de lire en dehors du lit. Oui? Voilà, tout à fait. Parce que là, vous fermez le livre. Bon, on allume la lumière généralement, hein, et là, on marche et on va au lit. Et tout ça, c'est de l'activité physique. Et cette activité physique vous réveille. Vous allez au lit. Alors, si vous avez pris le livre parce que vous ne dormiez pas, vous allez au lit, vous ne endormez pas. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est la même chose. Dans ces cas-là, on se lève de nouveau. On attend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps qui. En général, on conseille 15 minutes, hein, 15 à 20 minutes. Puis si on ne s'endort pas vraiment, parce que là, on a loupé l'endormissement, on se lève de nouveau. Et on recommence. Voilà, ça c'est une réalité. Mais le conjoint, ça veut dire qu'il ne dort pas. Parce que le soir, si. Alors bon. Alors tout ça, c'est des conditions. La chambre, la température de la chambre, c'est 19 degrés, hiver comme été. Alors l'été, c'est difficile parfois, mais l'hiver, il faut avoir une chambre chauffée à 19 degrés, entre 18 et 20. Donc s'il fait froid dans la chambre, il est à l'évidence, le froid dans une chambre, vous allez régler votre température corporelle contre ce froid qui est dans votre chambre. Donc si vous avez 15 degrés dans la chambre, eh bien, votre organisme réagit pour vous réchauffer. Que fait votre organisme pour vous réchauffer? Il vous stimule, en fait, il active vos métabolismes pour dégager de la chaleur interne. Et donc, ça, c'est un travail. Et ce travail vous réveille. Et ce n'est pas le froid qui vous réveille, c'est le travail que vous faites pour vous réchauffer. D'accord? Donc, la température de la chambre, il faut avoir une chambre, quand on a des difficultés, adaptée à un bon sommeil. La température fait partie de ça. Et vous savez très bien qu'en été, quand il fait très chaud, on a de grosses difficultés à dormir parce que là, où il faut mettre une climatisation, mais qui fait du bruit, qui vous empêche de dormir. Donc, c'est pas simple. Alors, quand le conjoint ne supporte pas les réveils et les déplacements de la personne, il faut avoir une entente cordiale avec le conjoint. Il faut trouver une solution. Hein. Donc, ça, c'est très important. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est à partir de l'agenda de sommeil, de bien comprendre son sommeil, de bien savoir si on est du matin, du soir, quelle est ma durée de sommeil qui me convient. Si mon conjoint se couche à 22 heures, je ne suis pas obligé de me coucher à 22 heures. Je peux me coucher à minuit si je suis du soir. Lui, il est du matin. On n'est pas obligé de se coucher ensemble. Hein, vous voyez, c'est tout ça. Si lui il est au lit, ben moi je peux lire au lit, mais la lumière le réveille. Donc à ce moment-là, je prends une lumière beaucoup moins importante. On peut avoir des lumières frontales pour éclairer que le livre. Il faut éviter d'avoir la lumière face aux yeux. Hein. Une lumière au plafond, c'est pas bon. C'est une lumière derrière qui éclaire le livre, toujours. Même quand on va à l'extérieur, quand on sort de son lit pour lire, il faut une lumière de faible intensité qui va éclairer que le livre. Que le livre. Si on veut lire, si on veut faire des mots croisés, c'est clair que le magazine. Oui. Alors la télévision. Alors si on s'endort, si on sent le sommeil arriver et que le documentaire est absolument nécessaire à votre survie, vous résistez à l'endormissement, en sachant que quand vous allez vous coucher à la fin du commentaire, 10 minutes ou un quart d'heure après, vous allez vous mettre une heure ou une heure et demie à ne pas dormir. D'accord? Donc si vous le savez, bah vous le savez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est attendre une heure et demie. Si vous attendez devant la télé, le problème sera le même une heure après. Vous allez dormir devant la télé parce que le sommeil va vous emporter. Maintenant, ça ne prévient pas. Hein. Ça ne prévient pas quand on est devant la télé, ça ne prévient pas quand on est au volant de la voiture non plus. Hein. Vous savez que c'est la première cause d'accident mortel sur autoroute, c'est l'endormissement au volant. Et c'est la première cause sur route aussi. Contrairement, parce qu'on commence à avoir les données qui sortent. Donc, c'est une cause d'accident de voiture. Donc, ce qui vous arrive le soir devant la télé, où là, il n'y a pas de danger, ça peut arriver sur la route. Bon, mais le soir, c'est normal. C'est parce que c'est la pression du sommeil. Le besoin de sommeil est tellement fort. Donc, vous faites une action d'éveil. Vous regardez la télé. La télé vous stimule par la lumière, par le son. Mais le besoin de sommeil est tellement fort que là, ça vous endort parce que vous êtes dans des conditions où normalement, vous devriez dormir. Mais comme vous décidez que l'émission de télé vous intéresse, vous avez dormi 5 minutes et vous continuez à la regarder. Et après, vous avez passé le niveau d'endormissement. Donc, c'est à vous de décider. Ou, quand les signes de sommeil viennent, vous avez dormi quelques secondes et vous vous en rendez compte, vous allez au lit et vous perdez la fin de l'émission. Ou vous regardez la fin de l'émission, mais vous aurez des difficultés éventuellement à vous endormir. Donc, il faut le savoir. Mais... Ah ben alors, si vous vous endormez tôt, ce n'est pas l'heure d'aller au lit. Ou alors, sachez que si vous vous endormez à 21h devant la télé et que vous dormez jusqu'à 22h30, vous avez pris un cycle de sommeil. Ce cycle de sommeil, vous ne l'avez plus pour la nuit. C'est-à-dire que si vous vous couchez à 23h et que vous avez besoin de 7h de sommeil, vous vous réveillerez à 5h du matin. Et que ce n'est pas la peine d'aller voir votre médecin pour lui dire « moi, je me réveille tôt » parce que vous savez que le médecin a un réflexe s'il connaît le problème, c'est que le réveil précoce, c'est associé souvent à la dépression. Donc, on va dire, cette personne vient me voir, elle est insomniaque, elle s'endort facilement le soir, mais elle se réveille tôt. Elle est peut-être dépressive. Non, c'est simplement que vous avez dormi 2 heures dans la journée. Hein? Donc, attention, il y a des erreurs comme ça. Mais c'est fréquent. Hein, que on s'endort, quand on s'endort facilement et qu'on se réveille tôt, soit c'est parce qu'on est au lit et on n'a pas envie de dormir, parce qu'on est court dormeur, mais il y a souvent, parfois, associé à un état dépressif. Alors ça, oui. Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le problème de l'insuffisance de sommeil. C'est pas le problème de l'insomnie. Vous parlez de l'insuffisance. Je travaille, donc je me couche tard et je me lève tôt. Bah si. C'est... Parce que vous travaillez. D'accord. Donc vous avez une insuffisance de sommeil. Parce que, d'accord. Donc là, on a le droit de récupérer le week-end. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le récupérer le week-end, mais pas récupérer beaucoup. C'est-à-dire que vous calculez la quantité de sommeil qui vous manque dans la semaine. Hein, si vous manque 1 heure de sommeil par nuit, à la fin d'une semaine, il vous manque 1 nuit de sommeil. Hein, vous n'allez pas dormir 2 nuits à suite, ça ne se fait pas. Vous n'allez pas dormir 24 heures continue. Donc, on ne récupère pas comme ça. Donc, on ne récupère pas la quantité perdue. C'est le cerveau qui fait sa petite tambouille lui-même, c'est-à-dire qu'il va modifier la qualité de votre sommeil. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, quand vous allez dormir et que vous n'aurez pas l'anxiété d'aller travailler le lendemain matin, parce que ben, y a des choses différentes, eh bien, le sommeil, vous allez pouvoir dormir 1h30 de plus si vous vous levez à 7h, vous allez vous lever à 8h30, 9h maximum pour pas dérégler l'horloge complètement. D'accord ? Donc là, vous acceptez, on accepte, moi j'accepte un cycle de sommeil en plus le matin. Donc on décale un petit peu, ça fait 1h30 de sommeil en plus. Mais le sommeil que vous allez faire, il va être constitué de beaucoup de sommeil profond. Et donc vous allez récupérer beaucoup pendant le week-end. Mais si vous dormez le week-end, par exemple, l'après-midi, 1h30, en pensant que ça va vous permettre de récupérer, l'inconvénient, c'est que le soir, vous n'aurez pas envie de dormir, parce que votre temps d'éveil ne sera pas assez long pour accumuler du sommeil. Donc vous aurez dormi le matin jusqu'à 8h30, 9h, donc une petite grasse matinée. Ça ne vous a peut-être pas suffi, mais donc l'après-midi, vous allez décider de faire 1h30 de sommeil. Cette 1h30 de sommeil que vous allez prendre l'après-midi, diminuer votre besoin de sommeil. Ce besoin de sommeil, vous ne l'aurez pas le soir pour vous endormir. Et donc, quand vous irez vous coucher le soir, vous n'aurez pas envie de dormir et vous aurez une insomnie d'endormissement. Et vous penserez, le soir, je ne m'endors pas parce que le lendemain, j'ai du travail. Or, c'est parce que vous vous êtes mal comporté par rapport à votre sommeil. Et vous allez attribuer cette insomnie d'endormissement le soir au fait que vous êtes anxieuse pour aller travailler. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est parce que vous avez eu un mauvais comportement, c'est-à-dire que vous avez dormi trop longtemps dans la journée.
Et si, au lieu de faire la sieste, on s'allonge et qu'on recule
pour se reposer? Ah, ben ça, c'est différent. Non, non. Non, c'est le sommeil, hein. Vraiment, c'est un besoin de sommeil. Il faut dormir. Si on est allongé pour se détendre, ça, c'est non. Dans la journée, non. Ben quand on sent les ruminations qui arrivent, on se distrait, on fait autre chose. Hein. C'est-à-dire, on conseille soit la lecture, soit le dessin, soit des activités calmes. Pas de repassage, pas de jardinage, pas de couture. Quoique la couture, je ne sais pas si c'est très actif. De la musique, oui, on peut écouter de la musique calme. Il ne faut pas écouter de la musique violente. Donc on fait autre chose pour distraire son attention de ses pensées négatives. Ou alors, si on est capable, certaines personnes sont capables de réorienter leur rumination. Hein. Mais si on n'y arrive pas, il faut faire autre chose. Et autre chose, ça veut dire vraiment se distraire, c'est-à-dire faire autre chose, non pas pour ne plus penser à ça. C'est-à-dire lire un livre, faire des mots croisés, quoique les mots croisés, ça peut être avoir une certaine activité intellectuelle, mais faire autre chose pour ne plus penser à ces ruminations. C'est un exercice. Hein. Et alors, on va pouvoir s'aider de ça. Hein, alors, soit de la phytothérapie, ça peut facilement, pour certaines plantes, remplacer, d'ailleurs, dans les recommandations pour le traitement de l'insomnie, après toutes les recommandations comportementales et les aspects cognitifs, c'est-à-dire les pensées, essayer de se distraire de ces pensées négatives par rapport au sommeil ou de ces ruminations. La recommandation en premier, c'est la prise de médicaments à base de plantes. Alors, ce n'est pas des médicaments, mais la phytothérapie. Alors ça, vous pouvez le trouver en vente libre très, très facilement. Hein, il y a différents types de molécules. Alors, la phytothérapie, ça a une action en termes de rituel d'endormissement. Hein. C'est un peu comme la tisane que vous prenez, hein, c'est à base de plantes. Donc, ce rituel d'endormissement à base de plantes facilite l'endormissement. Puis, il y a quelques plantes qui ont une action, la valériane, par exemple, hein, la mélisse aussi, l'escolzia, oui. Alors, ça, c'est c'est ce qu'on appelle une parasomnie, comme la fête de parler. Alors, c'est très, très fréquent chez les enfants, les nourrissons. C'est un auto-bercement, en fait. Hein. Donc, la personne va d'un côté sur l'autre. Parfois, elle est assise même ou accroupie sur son lit, hein, pour les nourrissons. Ça peut persister chez l'adulte. C'est rare. C'est absolument tout à fait banal. Hein. Il y a aucun risque particulier, même chez le nourrisson. Le seul risque, comme c'est fréquent chez les nourrissons, il se berce. Hein. C'est un bercement qui peut être très violent. Hein, quand il y a des lits avec des bas-côtés métalliques, ils peuvent se taper sur le lit pour s'endormir. Hein. Donc, il faut à ce moment-là mettre des oreillers. C'est tout ce qu'on conseille. Pour un adulte, il n'y a aucun conseil particulier. C'est une attitude. Alors, la personne ne dort pas encore. Hein. C'est une position d'auto-bercement. Peut-être que ça facilite l'endormissement pour cette personne-là. C'est aussi efficace qu'un hypnotique. Hein. On peut l'observer sur les plages l'été. Hein. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il y a des gens qui sont allongés pour faire se bronzer au soleil, puis finissent par s'endormir. Mais vous les voyez de temps en temps, vous voyez des gens qui dodelinent de la tête comme ça. Hein. Ça s'appelle une rythmie d'endormissement. C'est un rythme que la personne se donne pour s'endormir. Et la maman le fait aussi. Nous, on le fait pour les bébés. Hein. On ne sait pas comment ça agit, cette affaire-là. Il y a des études qui sortent, qui pensent qu'on modifie en fait la vascularisation cérébrale en berçant l'enfant et on apporte un supplément peut-être d'un afflux de sang au niveau du cerveau. On ne sait pas trop comment ça agit en fait. Alors, vous avez des techniques qui peuvent faciliter. Il ne faut pas hésiter à les utiliser et à apprendre ces techniques, soit avec des professionnels qui vont vous les enseigner, soit sur Internet, vous avez des cours. Hein. Les techniques respiratoires en particulier sont très, très efficaces. On vous apprend à respirer lentement. Vous pouvez, quand vous commencez à ruminer quelque chose, eh bien, plutôt que de ruminer, vous pensez à votre respiration. Il y a un exercice qui est simple que vous pouvez faire, c'est respirer en quatre temps. Hein. Inspiration, je me bloque. Alors vous comptez le temps du blocage, 2, 3, 4, 5 secondes, ce que vous voulez. Ensuite, j'expire tout doucement, je me bloque et je recommence. Hein, vous voyez, 4 temps. Et ça, vous pouvez faire ça. Voilà. Et il y a des techniques comme ça de relaxation qui peuvent aider. Donc la personne qui est un peu anxieuse, eh bien, elle va. Et surtout, ne pas avoir peur de ne pas dormir. Hein, ça, c'est fondamental. Donc vous avez ici différentes techniques. L'acupuncture, bah, c'est ponctuel, ça, c'est le cas de le dire. Ça ne va pas vous endormir indéfiniment. Il y a des techniques d'hypnose aussi qui se développent. Il y a des gens maintenant qui utilisent l'hypnose pour faciliter une période difficile d'insomnie, hein, quand on ne sait pas comment faire. Et là, ça semble marcher aussi. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Je suis insomniaque, Et la première chose, c'est d'utiliser des somnifères pour traiter mon insomnie parce que la voisine a pris un médicament qui lui va et je prends le médicament de la voisine ou de conjoint, etc. Et ça, je vais m'habituer en fait. Et l'effet de ce somnifère, bon, ça peut être une nuit, mais comme cette nuit a été efficace, à la prochaine insomnie, je recommence. Et après, je vais plus tolérer de ne pas parce que c'est tellement pratique de s'endormir rapidement. Hein. Et puis, si je le prends tous les jours, je vais m'habituer et l'effet diminue. Et donc, comme l'effet diminue, je vais avoir tendance à augmenter les doses. Et si j'augmente les doses, eh bien, je vais à nouveau avoir un effet de tolérance. Donc, je m'habitue, mon organisme s'habitue. Et là, ça fait longtemps que maintenant, ça fait 2-3 mois que je prends cet hypnotique. Bah, déjà, je commence tellement à m'habituer que je ne peux plus m'en passer. Et donc, je décide brutalement d'arrêter. Donc, j'arrête. Et si j'arrête d'un seul coup, tentative d'arrêt, eh bien, j'ai mon insomnie de rebond. Donc, mes récepteurs dans le cerveau ont une sorte de manque. Okay. Je suis insomniaque de nouveau. Et là, je fais l'association, je n'ai pas pris mon médicament, donc j'ai mon insomnie cette nuit, donc le lendemain, il faut que je reprenne mon médicament, et peut-être même un petit peu plus fort pour dormir. Et donc, je reprends mon médicament, et là, j'ai une vraie dépendance au somnifère. On ne sait plus comment le traiter, et cette dépendance-là, elle n'est pas facile ensuite à éliminer, et c'est un vrai cercle vicieux, parce que là, on a une personne qui est dépendante depuis des années et des années à son hypnotique à haute dose, et il y a une difficulté. Donc, le sevrage va se faire sur plusieurs mois, 5, 6 mois, voire une année. C'est très, très, très progressif quand on est à haute dose d'hypnotique. Hein. Ah si, au contraire, parce qu'il faut, non seulement on va faire le sevrage, mais on va appliquer toutes les techniques de régulation des horaires, de durée de sommeil, etc. Si, si, il faut continuer. Mais il ne faut pas faire un agenda de sommeil toute sa vie. C'est pour une période, hein. Pendant 15 jours, 3 semaines, on fait un agenda, on applique la situation, ensuite... On cède de l'agenda pendant qu'on fait la technique hein, de régulation de son horloge, de réglage de son horloge et sa durée de sommeil. Et puis ensuite, on arrête. Parce que si ne faut pas que ce soit une obsession de faire cet agenda. Hein. Après, c'est si on transfère l'insomnie sur l'obsession de l'agenda, non, ça ne va pas. Hein. Un exemple de mauvais sommeil, vous voyez, c'est assez fréquent. Voilà, je fais une sieste, on vient de l'évoquer, je fais une sieste longue l'après-midi. Donc cette sieste longue diminue mon besoin de sommeil, je vais me coucher plus tard. Donc je regarde la télé, je fais quelque chose le soir, hein. Je discute, je suis avec des amis, enfin ce que vous voulez, je me couche plus tard parce que je n'ai pas envie de dormir. Donc ça, comme je me couche plus tard, ben, je vais accumuler une dette de sommeil. Le lendemain, il faut quand même que j'aille travailler. Voilà. Et donc ben, je vais me réveiller plus tard le week-end parce que dans la semaine, j'ai un manque de sommeil. Donc je vais compenser le week-end. Donc, je décide de me réveiller plus tard. Et ça, eh bien, ça renforce mon coucher plus tard. Puisque si je me réveille plus tard le matin, j'ai moins envie de dormir le soir. La durée d'éveil a été plus courte. Hein. Donc, je me couche plus tard. Et le soir, eh bien, enfin, mon organisme n'a pas envie de dormir au moment où je vais me coucher. Et donc, j'ai une difficulté d'endormissement. Je vais me coucher à 22 heures, mais mon organisme, mon cerveau, n'a besoin de dormir qu'à minuit. Donc, je suis 2 heures au lit. Et donc, la restriction de sommeil en semaine s'accumule. Et donc, là, ensuite, j'ai des problèmes de somnolence dans la journée. Il y a une conséquence, c'est que si je suis en insuffisance de sommeil, en manque de sommeil dans la journée, eh bien, je vais être somnolent dans la journée. J'ai envie de dormir tout le temps. On peut mesurer cette somnolence avec des échelles toutes simples. Et donc, comme je suis somnolent dans la journée, eh bien, je vais faire une sieste l'après-midi, en particulier le week-end. Et là, on a un cercle vicieux qui se continue indéfiniment. Si on ne fait pas, à un moment donné, une règle. Je ne vais pas faire cette sieste l'après-midi. Et comme ça, j'aurai mon sommeil le soir. Et le soir, je m'endormirai dès 22 heures et non pas à minuit. Et je ne serai pas en insuffisance de sommeil. Il faut bien le comprendre. Autre exemple, c'est accoucher trop tôt. Hein. Ça, c'est l'avance de phase. C'est fréquent chez les personnes âgées, surtout en institution. Parce que là, on les couche très tôt, en fait. Donc, je me couche trop tôt, donc je n'ai pas assez de sommeil pour toute la nuit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je me couche à 21h, ben, si j'ai 6h ou 7h de sommeil, je me réveille à 4h ou 3h du matin. Donc là, j'ai un réveil précoce. Attention, ce n'est pas nécessairement une dépression. Hein. Alors là, attention, il y a une erreur dans l'appréciation à ce moment-là. J'ai l'impression de ne pas dormir en fin de nuit. Je me réveille à 4h, je n'ai pas envie de dormir. Qu'est-ce que je fais? Si je suis un peu habitué, je prends une hypnotique la nuit à 3h ou 4h du matin. Et alors là, je dors parce que l'hypnotique, il vous fait dormir. Mais là, c'est l'hypnotique, il a une durée de vie qui est longue. Et le matin, j'ai encore envie de dormir. Et donc, je prolonge, en fait, éventuellement, si je suis retraité, je vais dormir le matin et me réveiller à 11h ou midi ou 10h. Donc, je prolonge le matin. L'après-midi, si je ne suis pas très actif, je ne fais pas grand-chose, je regarde la télé, je redors encore une heure, ce qui fait que le soir, je ne vais pas pouvoir dormir. Mais je vais quand même me coucher. Donc, hypnotique la nuit. Donc, le besoin de sommeil trop précoce le matin, à l'hypnotique, et aussi parce que je n'ai pas dormi de la nuit en fin de nuit. Donc, il y a des problèmes de vigilance en fin de soirée. Donc là, ce sont des personnes qui, arrivées à 20h, ont envie de dormir parce qu'elles se sont couchées trop tôt. Depuis longtemps. C'est l'avance de phase. Et alors, comme j'ai envie de dormir, je vais me coucher. Personne ne m'empêche d'aller me coucher à 20h. Il faut savoir que si je vais me coucher à 20h, ben, je me réveillerai à 4h. Mais à ce moment-là, il faut se lever. Donc, on est décalé, mais il faut l'accepter. Si je me lève à 4h, c'est OK. Mais si de 4h à 8h, je reste au lit et que je me plains de rester au lit, eh ben, ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on va donner un hypnotique pour dormir. Il ne faut pas. Il faut se lever. Ou alors, se coucher à minuit pour se lever à 8h. Pour se lever à minuit, il faut accepter pendant une période de temps de se coucher plus tard et de résister au sommeil. Alors, des mauvaises attitudes, vous voyez, on a des kilos. Hein, moi j'ai explication des conséquences d'une mauvaise attitude, je me couche tôt pour dormir. 22h, je n'ai pas envie de dormir, mais j'y vais parce que je veux dormir. Je ne dors pas, mais je reste au lit. Je n'ai pas envie de dormir, mais je reste au lit parce que je sais que j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Moi, c'est 10 heures. Moi, j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Donc, comme je me lève à 8 heures, il faut que je me couche à 22 heures. Donc, ça me fait 10 heures au lit. Mais à minuit, je ne dors toujours pas. Mais je me couche toujours à 22 heures. D'accord ? Mais pourquoi ? Ben parce que j'ai besoin de 10 heures. Mais vous dormez 8 heures. Oui, mais j'ai besoin de mes 10 heures. Faites l'agenda. 3 semaines, vous avez dormi en moyenne 8 heures. Pourquoi vous vous couchez à 22 heures ? Parce que j'ai besoin de me coucher à 22 heures. Mais je reste au lit. Sinon, je serai fatigué le lendemain. Ah oui. Et alors, si vous regardez bien votre agenda, vous marquez les notes, hein, et vous verrez qu'il y a des nuits de 4 ou 5 heures où vous êtes très bien le lendemain. Alors, on profite de ces nuits pour expliquer à la personne, vous voyez là, vous m'avez mis 8 très bien dans la journée et vous avez dormi que 4 heures. Il n'y a pas un lien strict entre la durée de sommeil et la qualité de la journée. Vous savez tous que vous avez passé des nuits très courtes avec des journées excellentes le lendemain. Ça dépend ce que vous avez à faire. Si vous avez un patron qui vous enquiquine, là, ça peut être évidemment une difficulté. Mais sinon, je serais fatigué. Donc, l'impression de ne pas dormir de toute la nuit, parce que je ne dors pas, mais je reste au lit. Comme j'ai mal dormi, je ne suis donc pas efficace. Ça, c'est une pensée. Hein. J'ai mal dormi, donc je ne suis pas efficace. C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais la note, elle vient le matin, là. C'est pour le futur. Donc, il faut savoir attendre et voir comment la journée s'est passée. Et je vous dis, ce n'est pas automatique, hein. Ce n'est pas du tout automatique. Si je ne suis pas efficace, c'est parce que j'ai mal dormi. Donc on rattache tout au sommeil. Hein. Si ceci ne s'est pas fait correctement, c'est parce que j'ai mal dormi. Si ça ne s'est pas fait correctement, c'est parce que hier soir, je ne me suis pas endormi correctement, etc. Tout est focalisé au sommeil. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Et comme j'ai mal dormi, eh bien, je vais me coucher tôt pour mieux dormir. Voilà. Et ça, c'est, on tourne en rond et ça dure des années et des années. Alors, on peut s'aider de la lumière, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est la lumière du soleil qui rythme notre sommeil, lumière du soleil, et l'obscurité la nuit, l'obscurité dans la chambre. Faites l'obscurité dans les chambres. Si vous avez une chambre éclairée, amusez-vous hein, à voir l'obscurité totale. Vous allez gagner au moins une heure de sommeil, sans vous en rendre compte. Oui, on peut pleurer avec les yeux. Hein. En réglant tous les jours notre horloge, et ça règle tous les jours. C'est-à-dire que si une fois vous déréglez votre horloge, si en plus votre horloge est sensible à cette modification d'horaire, parce que vous avez été en travail posté, ou vous avez eu une avance de phase quand vous étiez jeune, vous avez déjà déréglé votre horloge, elle est plus difficile à recaler. Donc si un ou deux jours à suivre, vous ne respectez pas les consignes, eh bien à nouveau vous entrez en difficulté. Donc si c'est le cas, eh bien hop, vous vous corrigez, vous prenez l'agenda. Hop, je me corrige avant que ce soit trop tard. Donc ça, c'est des lumières qui sont vendues hein, dans le commerce. Ça vaut une centaine d'euros. Ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Mais ça agit à la fois sur l'horloge biologique et sur l'humeur, indépendamment. Donc on donne ces lumières, ces luminothérapies pour les gens qui ont des dépressions saisonnières. Maintenant, là, où la lumière commence à diminuer, et au printemps aussi. Mais là, en ce moment, la lumière, le jour diminue. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien. dans les pays du Nord, en Finlande, tout ça, ça se vend de plus en plus parce que c'est efficace non seulement pour régler l'horloge biologique, mais aussi sur l'humeur. Hein, vous sentez mieux quand vous avez de la lumière. Et vous savez très bien qu'au printemps, quand le soleil arrive, eh bien, on se sent mieux, plus joyeux. Et la personne qui a inventé cette luminothérapie, c'est simplement à partir de ce constat-là. Elle était dans un pays très, très éclairé. Elle est allée dans un pays beaucoup moins éclairé et elle ne se sentait pas bien. Et c'était un médecin. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas bien? Il a regardé tous les éléments, c'était son travail l'intéressait, etc. Et il a constaté que là où il était, c'était à New York, il y avait moins de lumière que là où il venait, c'était en Israël. Il s'est dit, mais il y a un problème. Et peut-être que si je m'éclaire, ça va être plus intéressant. Donc il s'est éclairé lui-même, il se sentait mieux. Et ensuite, elle a fait tout un tas de travail scientifique sur cette luminothérapie. Alors ça dépend. En général, pour être bien dans la journée, il faut s'éclairer le matin. Alors, on donne la luminothérapie pour des problèmes de calage de phase. On est trop en avance ou trop en retard. Donc ça, il faut l'indiquer. Si on est trop en retard, si on se couche trop tard et qu'on ne peut pas se lever le matin, il faut mettre la lumière le matin. Pour l'humeur, pour la sensation de cette petite déprime saisonnière hein, qui peut amener à une vraie dépression, on fait la lumière le matin. Au moins une heure à peu près. Hein, 10 000 lux, une heure. Cette lumière, elle est sur le bureau, hein, sur la table du petit déjeuner, et vous êtes exposé à peu près à 1 mètre de la lumière. Ça peut être au plafond aussi, si vous voulez l'accrocher au plafond. On est à peu près à 1 mètre de la lumière pendant une heure. On lit un livre, on fait ce qu'on veut, on prend son petit déjeuner. Et après une heure, on éteint la lumière, on la laisse, on fait ce qu'on veut. Mais c'est une heure d'exposition, au moins une demi-heure jusqu'à une heure, 10 000 lux. Il semble que des intensités inférieures soient aussi efficaces. La lumière blanche, c'est une lumière spéciale, hein, ce n'est pas n'importe quelle lumière. Parce qu'il ne faut pas regarder la lumière en face, mais il n'y a pas de danger pour la rétine. D'accord ? Parce que les lumières comme ça, si on les regarde en face, on peut avoir des lésions de la rétine. À longue durée, quoi. Donc, il va falloir donc apprendre à garder une horloge bien calée. Voilà. Utiliser la lumière le matin, si on veut se caler le matin, le soir, si on veut rester éveillé le soir. Mais si on est un couche-tôt, on ne deviendra jamais un couche-tard. On pourra éventuellement corriger une heure, se coucher à 21h ou 22h au lieu de 20h, donc on va décaler. Par contre, si on devient un couche-tôt en vieillissant, là, on va pouvoir s'éclairer le soir pour éviter au sommeil d'arriver trop tôt. Donc, il faut s'éclairer le soir et arrêter la lumière une heure avant d'aller se coucher. Parce que c'est un stimulant très fort de l'éveil, hein. Donc les rythmes sociaux, savoir vivre avec les autres, bah, avoir des activités associatives, etc. quand on est plus âgé. Et au travail, eh bien, c'est sûr que quand on n'a pas de travail, c'est une difficulté. Mais ça, c'est très très important. L'alimentation, 3 repas réguliers, répartis 30%, 40%, 30% de prise énergétique. L'exercice physique dans la journée et pas le soir. Si vous faites un match de tennis ou si vous marchez une heure simplement ou une demi-heure le soir avant d'aller vous coucher, ça vous réveille. Donc, il ne faut pas attendre le sommeil. Ça va vous fatiguer. C'est une fatigue physique, mais ça ne va pas vous endormir. Donc, vous allez vous reposer pendant une heure sur le fauteuil, assis, éventuellement en regardant la télé. Mais ensuite, on va se coucher. Mais si on va se coucher tout de suite après l'effort physique, on ne s'endort pas. Il y en a qui vont vous dire, mais moi, je m'endors tout de suite. C'est souvent des gens qui sont en insuffisance de sommeil aussi. Donc s'il y a une absence de tous ces synchroniseurs, parfois on est en libre cours, c'est-à-dire on a des gens qui font n'importe quoi, hein. Ils se couchent une fois à 2h du matin, ils se réveillent à 8h, puis le lendemain ils se couchent à 22h, enfin bon, c'est très difficile à gérer. Alors comment on fait pour mieux dormir sans somnifère? On arrive à la fin. Ben, il faut modifier les habitudes qui empêchent le sommeil, hein. Donc on les a vus un petit peu, le sport le soir, la prise d'excitant, de café, etc. La température de la pièce. Il faut savoir réguler les horaires de lever et de coucher. En sachant que c'est le lever qui est le plus important, très important pour l'horloge biologique. Corriger ses croyances erronées, les idées reçues sur la durée de sommeil. Il faut que je me couche tôt. C'est les gens qui se lèvent tôt qui sont les plus efficaces, etc. Réduire l'activation physiologique. Ça, c'est le sport, l'exercice physique. Savoir gérer le stress, donc parfois il faut apprendre des techniques de gestion du stress avec des techniques de yoga, de relaxation, de décompensation. Ce n'est pas toujours facile. Donc la gestion du stress, hein, quand on est au travail, c'est aussi des techniques particulières. Mais déjà, savoir qu'on est stressé, c'est un élément important pour décompresser, parce que parfois, les gens ne le savent pas. Et puis, minimiser, voire supprimer l'usage des hypnotiques. Si on les supprime et qu'on a une prise hypnotique chronique, il ne faut jamais les supprimer d'un seul coup, hein, toujours progressivement. S'informer sur l'hygiène de sommeil, c'est ce que je vous ai fait ici. Donc, prendre conscience que le sommeil, eh bien, ça s'entretient. Hein, et on ne fait pas n'importe quoi. Si on ne veut pas grossir, on ne mange pas en grande quantité. Hein, voilà. Si on ne veut pas être ivre, on ne va pas boire de l'alcool. Hein. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir être éveillé pour savoir dormir. Améliorer le sommeil, mais aussi développer une meilleure tolérance à l'insomnie. Et ça, c'est fondamental, parce que ne jamais supporter le fait de ne pas dormir, ça conduit à la prise hypnotique. La bonne hygiène de sommeil, voilà, c'est éviter tous les excitants, le café, le thé, la vitamine C, le Coca-Cola, etc., les Red Bull. Ne pas faire de repas copieux le soir et éviter l'alcool au dîner. Le repas copieux, ça vous crée une digestion, ça dégage de la chaleur, vous n'êtes pas bien et vous ne dormez pas. Hein. L'alcool, évidemment, l'alcool, ça endort, mais ça crée vraiment une fragmentation du sommeil et un réveil précoce. Éviter de pratiquer du sport ainsi que toute activité stimulante après 17 heures, ça c'est très sévère. Vous savez qu'à Poitiers, il y a l'école de sport, là, la fac de sport. Ils font tous du sport à 21 heures, les jeunes. De 21h à 23h. Donc, ils n'ont pas de problème actuellement parce qu'ils sont jeunes, mais peut-être que plus tard, ils en auront. Donc, évitez le sport. Disons, si vous faites de la marche, il faut arrêter le sport au moins 4 heures avant d'aller se coucher. Donc, 17 heures, c'est si vous allez vous coucher assez tôt. Favorisez toute activité relaxante le soir, la lecture, la musique. Alors, la télé, ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent « ça m'endort ». Seulement, il faut savoir, si vous avez une télé dans la chambre, que ça vous endort, mais que ça vous maintient éveillé par la lumière que projette l'écran de la télé sur vous-même, c'est comme un ordinateur, hein, et que quand le son s'arrête, ça vous réveille. Donc, il faut, faudrait presque programmer la télé pour qu'elle s'arrête progressivement et que le son s'arrête progressivement pour ne pas réveiller au moment où tout s'arrête. Si on va éteindre la télé en se levant, par exemple, ou même avec la télécommande, ça, c'est un acte qui vous réveille. Ensuite, vous ne dormez pas. Donc, on ne va surtout pas recommander la télé dans une chambre à un insomniaque. C'est en dehors. Un insomniaque, il est au lit pour dormir, point. Donc, c'est ailleurs que dans la chambre. Dormir dans une chambre aérée dont la température ambiante se situe entre 18 et 20 degrés. Et donc, on ne va pas faire de sieste dans la journée si on est insomniaque pour augmenter son besoin de sommeil le soir. Donc là, je viens de le dire. Pensez aussi au matelas. Hein. Il y a énormément de difficultés pour les gens douloureux, par exemple, si le matelas est trop dur, hein, ou trop souple. Donc, il faut trouver le matelas et le couchage adapté à chaque personne là, aussi. Hein. Ce n'est pas forcément le couchage trop dur ou trop mou. Il faut trouver le bon matelas, température. Alors, l'obscurité dans la chambre, ça, c'est fondamental. Améliorer son sommeil, c'est connaître son sommeil et respecter son horloge biologique. C'est vraiment, tous les conseils sont là-dessus. Hein. C'est vraiment important. Se coucher à son heure, ni trop tôt, ni trop tard. Et les éléments clés pour mieux dormir sans somnifère, je vous les rappelle, mais on les a tous évoqués. La première chose, c'est oublier son sommeil. Ne pas penser à dormir. Si vous commencez à vouloir dormir, vous ne dormirez pas. Parce que vous avez une activation cognitive et le fait de penser à dormir vous empêche de dormir. C'est un stimulant. Je veux dormir, je pense que je veux dormir, donc je ne dors pas. D'accord ? Ça vous stimule. Deuxième chose, on ne peut pas ne pas dormir. C'est un besoin vital, hein. Ça a été fait X fois en expérience. Si on empêche des animaux de dormir, ils finissent par mourir au bout de 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Donc vous pouvez être assuré là-dessus, vous dormirez de toute façon. Après, c'est dormir au bon moment. Et pour dormir au bon moment, c'est ce que je vous ai dit. Mais on ne peut pas dormir à la demande. C'est-à-dire que si vous allez vous coucher à 22h et que vous décidez de dormir parce qu'il est 22h, eh bien vous ne dormirez pas si votre organisme n'a pas besoin de sommeil. Donc, vous ne pouvez pas commander l'endormissement. Vous pouvez commander l'éveil. Vous pouvez décider de ne pas dormir. C'est fréquent. Je ne vais pas au lit, même si j'ai envie de dormir. Plus la période d'éveil a été longue, plus on a envie de dormir. Ça, c'est très, très important. Et la technique de restriction du temps passé au lit est basée là-dessus. Si on restreint son temps passé au lit, on est plus longtemps éveillé. Et donc, on aura plus envie de dormir pour la prochaine nuit. Et on va respecter son horloge biologique, en particulier le lever. Et il faut savoir tolérer des mauvaises nuits. Je dis bien des. Je vous rappelle que l'insomnie pour les médecins, c'est au moins 3 mauvaises nuits par semaine sur plus d'un mois, voire 3 mois pour les insomnies chroniques. Donc maintenant, pensez à vous, si vous avez une ou deux nuits par semaine, eh bien, vous la tolérez, point terminé. Et là, il n'y a pas eu un seul hypnotique de données, pas un seul somnifère. Et en médecine du sommeil, on ne donne plus de somnifères. On ne donne que des conseils et on applique ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Voilà, donc je peux répondre à toutes vos questions si vous voulez.
Moi, j'avais une question pour les personnes, au contraire, qui dorment beaucoup et qui sont toujours fatiguées. On dit que plus on dort, plus on est fatigué. Je voulais savoir si c'était vrai et comment faire pour y remédier.
Oui, il n'y a, y a pas assez de sommeil, on est fatigué. Et trop de sommeil, c'est pareil. Si vous restez trop longtemps au lit, en quelque sorte, quand on est trop longtemps au lit, on va prendre du sommeil en surplus. On ne peut pas accumuler le sommeil, hein. Mais ça induit une fatigue supplémentaire. Parce qu'il faut savoir opposer l'éveil et le sommeil. Donc si on est au lit sans avoir envie de dormir, on a un sentiment de fatigue qui va être surajouté. Tout à fait.
Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour réguler ça, en fait, pour,
ben, on se lève et puis on fait de l'exercice. Ouais. C'est tout. Si on est trop longtemps au lit, sans dormir, il n'y a aucune raison, surtout si on est fatigué, d'être au lit. Ça veut dire pas assez d'exercice physique. Donc on va décider de se lever par exemple à 7h du matin et dès qu'on se lève, on se met bien éclairé à la lumière et on fait de l'exercice. Alors ça peut être du sport, mais simplement de la marche à pied ou quelque chose qui va stimuler l'organisme. On peut prendre une bonne douche aussi ça, et de se mettre en condition pour stimuler l'éveil.
Il ne faut surtout pas faire de sieste aussi l'après-midi.
Non. Alors la sieste, si on a besoin de sieste, c'est des siestes brèves, jamais plus de 20 minutes. Hein. 5-10 minutes, c'est déjà très très bien. On fait des siestes longues dans la journée quand on a une dette de sommeil liée par exemple au travail. Hein, on est en travail posté et puis on ne peut prendre que 5 ou 6 heures de sommeil. Alors on a besoin de 8 heures. Là, on va pouvoir récupérer ou en fonction de l'horaire posté. On va devoir faire une longue durée de sommeil de jour pour compenser un manque de sommeil de nuit. Mais autrement, il n'y a pas de raison d'avoir des siestes longues, aucune.
Oui, moi j'avais une question sur par rapport au syndrome des jambes sans repos et par rapport à la qualité du sommeil qu'on peut avoir avec les médicaments qu'on nous donne aujourd'hui comme le Sifrol ou la Dartrelle. Parce qu'on dort, effectivement, mais... Enfin, on dérange plus son conjoint, en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, je suis pas sûre que la qualité du sommeil soit complètement réparatrice et en tout cas ne règle pas. Moi, je trouve les périodes d'une heure et demie où on se réveille, on bouge plus. Mais est-ce que ça a vraiment, enfin, quelle est l'incidence sur la qualité du sommeil?
Alors effectivement, oui, ça modifie la structure du sommeil. On a un peu moins de sommeil profond, on a des éveils un peu plus fréquents, mais par rapport quand c'est efficace, parce que ce n'est pas efficace chez tout le monde, les agonistes, c'est des agonistes dopaminergiques, par rapport à la situation, ce qui se passe quand on a un syndrome des jambes sans repos la nuit, enfin le jour on n'est pas bien, le soir, etc. Mais la nuit, il y a une fragmentation du sommeil à cause de mouvements périodiques du sommeil, ou alors on a cette impatience dans les jambes le soir qui nous empêche de nous endormir. Donc en donnant ce médicament, ça fait disparaître ou atténue, disons, la sensation. Donc on s'endort plus facilement. Et ça a comme deuxième conséquence de supprimer les mouvements périodiques qui surviennent toutes les 30 ou 40 secondes la nuit. Et donc ces micro-éveils qui sont totalement inconscients disparaissent. Pas toujours, hein, ça dépend des gens. Mais quand c'est le cas, on supprime la micro-fragmentation du sommeil et on améliore la qualité de l'endormissement et le sommeil lui-même. En revanche, si la personne se réveille, elle peut percevoir des éveils un peu plus prolongés la nuit. Mais globalement, le sommeil est de meilleure qualité.
Donc en fait, le mieux peut-être, c'est quand on a fait un examen du sommeil avant, justement pour trouver ce syndrome, c'est d'en faire un après, avec la prise de médicaments pour savoir si effectivement c'est réellement.
Non, c'est pas efficace. Franchement utile. Alors, on peut le faire s'il y a des persistances de plaintes et d'agitation nocturne pour voir si quelle est l'efficacité du médicament. Mais si la sensation des jambes sans repos disparaît et que le sommeil. Alors, il peut y avoir la persistance des mouvements périodiques nocturnes. On n'aura pas grand-chose à proposer à la place. On n'a rien, en fait. On avait avant un autre médicament qui s'appelait le Rivotril, mais qu'on ne peut plus utiliser. Et donc, on peut faire ça pour contrôler la disparition de la microfragmentation. En fait, c'est plus la personne qui le ressent. Il n'y a pas nécessité de valider le fait que le sommeil se soit amélioré ou que la microfragmentation ait disparu si la personne ressent un bien-être ou un mieux-être, disons.
Je voulais savoir comment se déroulent les consultations au centre du sommeil, au CHU.
Alors, pour accéder à une consultation, il faut d'abord aller voir son médecin généraliste. On ne peut pas faire de consultation sans être adressé par le médecin, votre médecin traitant, référent, qui vous adresse à la consultation avec un courrier en mentionnant l'objectif de la consultation, puisqu'ensuite, à partir du courrier, il y a une orientation vers tel ou tel médecin suivant sa spécialité par rapport au sommeil. Bon, le sommeil, il y a plein de maladies qui vont concerner soit les pneumologues, soit le neurologue, soit le psychiatre, soit le somnologue, parce que c'est un peu plus flou. Et donc, il y a un médecin qui reçoit les courriers et qui va orienter vers tel ou tel médecin. Si c'est un problème d'apnée de sommeil ou de ronflement, etc., ça ira plus vers le pneumologue. Si c'est un problème d'insomnie, ça ira plus vers un médecin psychiatre spécialisé dans le sommeil. Mais tous les médecins sont aptes à réorienter ensuite le patient s'il y a une erreur d'orientation initiale.
Oui, j'aimerais savoir si la stimulation endogène d'hormones de croissance favorise la qualité du sommeil.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la stimulation endogène ?
Eh bien, c'est-à-dire par des produits naturels. Il existe sur le marché actuellement des produits dits naturels pour stimuler l'hormone de croissance. Elle favoriserait la qualité du sommeil. Donc j'aimerais savoir si c'est vrai ou faux.
Je vois pas bien comment l'hormone de croissance peut faciliter le sommeil. Ce qui se passe, c'est l'inverse plutôt. C'est quand on dort et pendant le sommeil profond, on a une sécrétion d'hormone de croissance. Mais c'est l'inverse. C'est pas l'hormone de croissance qui facilite le sommeil profond. C'est la présence du sommeil profond qui induit la sécrétion d'hormone de croissance. Enfin, c'est pendant cette phase-là qu'on a une sécrétion d'hormone de croissance. Mais chez l'adulte, il n'y a aucune raison de favoriser la sécrétion d'hormone de croissance. L'hormone de croissance, elle est là juste pour, chez l'adulte, restaurer les dégâts de la journée en termes de membranes cellulaires, etc., de restauration de la fonction musculaire, des protéines. Bon, elle a une action, mais il n'y a pas lieu, elle n'a pas d'action sur le sommeil lui-même. C'est le sommeil qui a une action sur le sommeil.
Il y a des gens qui commercialisent certains produits qui disent que ça pourrait induire un meilleur sommeil.
Je ne connais pas ces travaux-là, mais il n'y a pas de logique dans cette affaire-là, pour moi, là, comme ça, spontanément.
Alors, j'ai l'impression, alors peut-être à tort, que les difficultés de sommeil sont plus récurrentes chez les femmes. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que le cycle hormonal influe sur la qualité du sommeil ?
Oui, on peut avoir. Alors, chez les femmes, oui, il y a plus de plaintes, disons, en tout cas, de mauvais sommeil chez la femme que chez l'homme, puisque c'est 30% des plaintes chez la femme. Enfin, 30% des femmes qui se plaignent, 30 à 40%, mais disons 30% des femmes qui se plaignent à mauvais sommeil contre 20% des hommes. Puis les hommes ne vont pas toujours consulter, alors que les femmes vont plus facilement consulter pour les problèmes de sommeil. Et il y a effectivement, en fonction du cycle menstruel, effectivement des retours, des cycles de mauvais sommeil ou pas, en fonction de la. C'est bien identifié, oui, tout à fait. Il y a par exemple des périodes de somnolence aussi, aussi par rapport à la grossesse. Qui sont liés au cycle. Somnolence ou insomnie, c'est dans les deux cas. C'est plus souvent insomnie d'ailleurs. Mais pendant la grossesse, c'est plus la somnolence. Dans la grossesse aussi, ce qu'on observe parfois, c'est des apnées du sommeil.
Est-ce qu'à ce jour, on connaît les effets de la prise récurrente d'hypnotiques ?
Au long terme ?
Oui.
Ben, c'est ce que je vous ai indiqué. Hein, c'est,
une dépendance
Ben, la dépendance aux médicaments. Hein, donc, et puis des médicaments qui vont avoir pour action des troubles de la mémoire éventuellement. Donc le médicament dont on ne pourra pas se passer. Et puis certains effets néfastes sur la somnolence dans la journée avec des risques d'accident de voiture, etc. C'est tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. L'irritabilité excessive parfois, parce que ça c'est un effet opposé à ce qu'on sait.
Est-ce que vous pensez qu'on pense pendant le sommeil ? Est-ce que nous créons quelque chose, une pensée pendant le sommeil ? Et deuxième question, à quoi ça sert les rêves ?
Alors les rêves, à quoi ça sert ? On voudrait bien le savoir. Mais le rêve lui-même, on ne sait pas trop, mais le sommeil paradoxal, on sait. On sait qu'on rêve beaucoup pendant le sommeil paradoxal, le petit rectangle vert là, qui survient pendant la nuit, qui est plus abondant en fin de nuit. Ça, maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pendant le sommeil, et en particulier pendant le sommeil paradoxal. Pour vous donner un exemple, on a fait des expériences chez l'animal, mais surtout chez l'homme, qui est un animal particulier, d'apprentissage pendant la journée. De choses assez compliquées, de déplacements dans des villes pour aller d'un point à un autre. Donc des choses assez complexes en trois dimensions sur ordinateur. Et on regarde ce qui se passe la nuit. On voit que la nuit, il y a une augmentation de la quantité de sommeil paradoxal. Les nourrissons à la naissance, mais même chez le fœtus, hein, chez les prématurés, les grands prématurés, un fœtus dort à partir de 28 semaines de gestation à peu près. Hein. Donc on a des prématurés qui naissent à 28 semaines. Et qu'on enregistre, on voit le développement de leur sommeil. Et ce qu'on voit en priorité, c'est le développement du sommeil paradoxal. Ils ont d'abord une grande, grande quantité de sommeil paradoxal. 70% du sommeil est représenté par le sommeil des rêves. Et chez l'adulte, c'est 20 à 25% seulement. Hein ? Un quart de notre sommeil, c'est les rêves. Un quart de sommeil, c'est le sommeil profond. Et la moitié du sommeil, c'est le sommeil léger. Et ce qu'on sait, c'est que pendant le sommeil paradoxal, il y a une structuration des réseaux neuronaux dans le cerveau. Quand on est fœtus, donc le système nerveux va subir une maturation progressive, et après la naissance, après 9 mois de gestation, c'est progressif sur plusieurs années. Et même quand on est adulte, on apprend des choses, on mémorise des choses, et cette mémorisation va se faire en particulier pendant le sommeil paradoxal. Et ça, en fait, ça met en place, ça stabilise en quelque sorte les connexions neuronales qui se mettent en place pour mémoriser les informations. Alors chez le nourrisson, il y a une potentialité très très grande, donc il y a tout un tas de circuits potentiels. C'est comme une ville, si vous voulez, toutes les rues se croiseraient les unes avec les autres sans organisation. Et puis progressivement, un terrain vague où une foule se promènerait de manière un peu liée au hasard, et progressivement vous voyez apparaître des chemins parce qu'il y a un chemin qui est plus pratique que l'autre, ou des moutons dans les montagnes, c'est exactement pareil. Et cette organisation des réseaux de neurones, des circuits, se fait en grande partie pendant le sommeil paradoxal. Et quand on est adulte, ce qu'on a observé, c'est cette mise en mémoire de l'information qu'on stocke dans la journée. Il faut la stabiliser ensuite pour la garder sur le long terme. Mais d'abord, il y a une mise en mémoire à court terme. Donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, ben, vous vous en souviendrez demain. Mais en particulier, vous allez le stocker la nuit pendant le sommeil paradoxal. Mais le sommeil profond sert aussi à la mise en mémoire. Mais là, on a bien étudié le sommeil paradoxal. Et cette information est stockée pendant un certain temps. Mais vous ne pouvez pas stocker toutes les informations du monde que vous voyez. Bah, quand vous avez marché dans la rue, vous avez vu tout un tas de choses que vous avez oubliées aussitôt. Puis certaines, vous allez stocker. Mais vous allez les oublier. Mais aujourd'hui, vous vous en souvenez, parce que vous les avez vues il y a une heure. Demain, vous n'en souviendrez plus. Et le sommeil paradoxal a cette deuxième fonction, c'est d'oublier les choses. Donc il y a des choses que vous devez garder et d'autres que vous devez éliminer. Donc de tri de l'information. Et donc on sait qu'il y a un tri qui est fait pendant le sommeil paradoxal. Et ça, c'est extrêmement... Donc le rêve, peut-être, intervient simplement comme... Alors, on rêve des choses qui se sont passées la veille, l'avant-veille, etc. Plus les choses sont éloignées, moins on rêve des choses. Donc, on rêve surtout des choses récentes. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait actuellement. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a dans certains rêves, ça a été montré par une équipe de la Pitié-Salpêtrière, les mouvements oculaires suivent les rêves. Le contenu du rêve. C'est-à-dire, on a vu des chasseurs pointer un gibier en l'air et les yeux se diriger vers le haut. où des gens secouaient une cigarette comme ça, sans cigarette, en dormant, hein, tout simplement, et voir les yeux se diriger vers le bout du doigt, enfin des choses comme ça.
Merci. Excusez-moi, parce que l'heure avance et normalement, nous, les habitudes de l'espace Mendès France, c'est qu'on essaie de terminer au plus tard vers 22h30. Donc là, on a déjà dépassé un petit peu l'horaire. Donc là, on va prendre une question parce qu'il y a une personne qui... Voilà, puis malheureusement, on va arrêter ensuite. Je m'en excuse et puis je vous donne rendez-vous donc aux prochaines conférences sur plein d'autres thèmes, je pense. Et pourquoi pas le rêve, effectivement. Donc je vous laisse le micro pour une dernière question.
Merci. Je fais partie des gens qui ont besoin d'un réveil pour me réveiller le matin. Or, il m'est déjà arrivé, il me semble, de devoir faire quelque chose de très important une journée et de me réveiller 3-4 minutes avant l'heure que j'aurais programmée sur le réveil. Je voulais savoir si c'était une coïncidence ou s'il y avait une cause.
Ça c'est, on l'a déjà, on a une petite idée de ce qui se passe à ces moments-là. Il y a des hypothèses de travail qui sont assez réalistes avec des bases scientifiques, c'est-à-dire que chaque cellule de notre organisme et du cerveau a sa propre horloge qui tourne pour elle-même. Et chaque cellule, comme si ici on était tous avec sa propre horloge, mais on a une horloge principale qui commande toutes nos montres. Donc c'est exactement la même chose dans le cerveau. Chaque cellule a sa propre horloge qui est pilotée par l'horloge principale qui est celle qui nous commande le jour et la nuit, les heures du sommeil, la digestion, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand on a quelque chose, enfin ce qu'on pense, ce qui se passe, c'est une hypothèse, mais qui semble être assez réaliste, c'est que quand on envisage de faire quelque chose pour une heure, où on doit se lever à 4 heures du matin, il y a une sorte de programme qui se met en place, qui calcule, parce que les horloges intracellulaires, en fait, c'est des circuits, c'est des boucles, ça travaille en boucle, c'est une petite boucle qui tourne sur elle-même, qui fabrique des protéines, et ces protéines se fabriquent sans cesse, en quelque sorte, donc ça tourne en permanence. C'est comme la trotteuse de la pendule, ça tourne. Et donc, quand vous programmez quelque chose, il y aura un programme principal qui compterait le nombre de tours qui doit être exécuté pour atteindre 4 heures du matin, l'heure à laquelle vous avez programmé. Et donc, ce serait engrangé, ce serait mis en place quelque part dans le cerveau, peut-être dans l'horloge biologique, enfin, on ne sait pas où. Et ce nombre de tours est programmé, serait programmé. Et une fois que vous avez atteint le nombre de tours au niveau de chaque cellule concernée, et donc aussi par l'horloge principale, eh bien vous avez atteint l'heure à laquelle vous deviez vous réveiller. Et ça déclenche les circuits d'éveil. Donc il y a une pré-programmation qui serait mise en place parce que vous l'avez envisagé. C'est totalement inconscient, bien sûr. Voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine.